Messieurs, merci beaucoup pour votre invitation. Alors, je vais parler d'un sujet qui est en effet un peu, qui est à la fois d'actualité et un peu technique, les éléments sur la transition énergétique en France, les principaux enjeux. Alors, je ne peux pas traiter évidemment de toutes les questions. Je serai amené quand même à parler pas mal de l'électricité et notamment du nucléaire. Et je vous dirai un peu aussi pourquoi, parce que c'est aussi un enjeu important dans le cas français. Alors, j'ai prévu de le faire en deux étapes, de rappeler un peu le contexte énergétique mondial. Il faut avoir quelques éléments en tête. Et ensuite, de me focaliser sur le cas français. Alors, si on prend le cas mondial, ce schéma est intéressant parce qu'il montre qu'en l'espace de 71 à 2017, c'est quand même passé pas mal de temps, la structure du bilan énergétique mondial a changé, mais finalement pas tant que ça. On s'aperçoit que la consommation mondiale d'énergie est passée de à peu près 5,5 milliards tonnes d'équivalent pétrole, on ramène tout aux tonnes d'équivalent pétrole pour faire simple, à 13,6, c'est les derniers chiffres, 2017. Si vous regardez la structure, il y a quelque chose qui frappe. En 1971, le charbon, c'était 26%, c'est des pourcentages, hein, c'était 26% de toute la consommation mondiale. Aujourd'hui, c'est 29%. Donc, on n'est pas sorti du charbon. Or, on nous dit, si on veut lutter contre le réchauffement climatique, la première énergie par rapport à laquelle il faut faire des efforts, c'est le charbon. Alors, évidemment, la France est un cas particulier, on consomme très peu de charbon en France. L'Europe consomme encore du charbon, on le verra. Mais évidemment, le charbon, il est consommé beaucoup en Asie, beaucoup aussi aux États-Unis, ce qu'on oublie. Les premières réserves mondiales de charbon, elles ne sont pas en Chine, elles sont aux États-Unis. La Chine est de loin le premier producteur, le premier consommateur. Mais en termes de réserves prouvées, les États-Unis sont devant la Chine. On l'oublie souvent. Ce qui explique le poids du charbon aux États-Unis. Alors, ce qui a changé, c'est quand même que la part du pétrole a baissé de 44 à 31%, et ça a été remplacé par quoi ? Par du gaz. Mais on est resté au sein des hydrocarbures. C'est-à-dire qu'en fait, le gaz a remplacé très largement le pétrole, hein, dans beaucoup d'usages. Et notamment, le pétrole a perdu des usages dans la production d'électricité. Dans les années 60, les centrales étaient souvent des centrales thermiques au fioul, hein, y compris en France. Alors pour le reste, on voit que la part du nucléaire a monté, hein, en énergie primaire, hein, c'est-à-dire l'énergie totale. Est passé de 1 à 5%, la part de l'hydraulique, c'est toujours à peu près la même, 11%, et puis les autres énergies renouvelables, eh bien, la part globalement, elle n'a pas tellement bougé. Donc, si vous voulez, c'est la stabilité, il y a des inerties très fortes dans le système énergétique. Alors, ça, c'est à l'échelle mondiale, ça ne veut pas dire que dans une région donnée, dans un pays donné, les choses ne changent pas, elles changent. Mais à l'échelle mondiale, on voit qu'aujourd'hui, les énergies fossiles continuent à dominer très largement le bilan énergétique. Hein, plus de 80%, ce sont encore des énergies fossiles. Pour faire simple, on est passé de 84 à 81. Donc il y a beaucoup d'efforts si on veut lutter contre le réchauffement climatique, et notamment au niveau du charbon. Alors quand on regarde maintenant les principaux pollueurs, à l'échelle mondiale toujours, ben, on s'aperçoit, que ce n'était pas le cas il y a quelques années, on s'aperçoit que, en 2015, ça c'est les chiffres de 2015, le principal pollueur, c'est la Chine, aujourd'hui devant les États-Unis. Donc il y a quelques pays qui comptent, on voit le Japon, la Russie, le Canada, l'Inde, puis les autres pays. La France compte peu, la France compte pour 1%. La France émet à peu près 1% des émissions mondiales. Alors on parle des émissions par pays, ça peut se discuter. Beaucoup d'économistes et d'écologistes préfèrent parler de l'empreinte carbone. Parce qu'on regarde les émissions qu'on fait dans un pays, mais quand j'achète des produits qui viennent de Chine et qui ont été fabriqués avec de l'électricité chinoise à base de charbon, qui c'est qui fait la pollution? Qui émet le CO2? C'est les Chinois. Mais qui consomme? C'est les Français. Donc en fait, si on veut parler d'émissions, c'est national. Si on parle d'empreinte carbone, il faut enlever, il faut déduire le carbone exporté à travers nos exportations, y ajouter le carbone importé à travers les produits qu'on achète. Mais évidemment, la comptabilité là est extrêmement compliquée parce qu'il faut pouvoir connaître tous les échanges internationaux, donc c'est trop complexe. Donc on raisonne en émissions par pays. Donc les Chinois sont de gros émetteurs. Mais ils s'en défendent en disant, une grande partie de nos émissions, c'est pour vous vendre des produits que vous nous achetez. Bon, c'est pas faux, mais en même temps, ils sont bien contents de nous les vendre. Si je regarde maintenant la production d'électricité. Alors, électricité, attention. Quand on parle souvent de transition énergétique, on a toujours tendance à tout ramener à l'électricité. Un petit peu comme si, avec l'électricité. Il faut savoir qu'en termes d'énergie finale, l'énergie sur le marché, si vous voulez, l'énergie consommée par le consommateur, vous et moi, les entreprises, c'est à peu près 25%. Donc, il faut avoir toujours en tête que l'électricité, ce n'est qu'une partie de la consommation d'énergie. Donc, si on regarde la production d'électricité dans le monde, toujours depuis 1971 jusqu'à aujourd'hui, vous voyez qu'elle a considérablement augmenté. C'est bon signe, ça veut dire qu'il y a des tas de gens qui n'avaient pas accès à l'électricité, qui maintenant ont accès à l'électricité. Bon, il en reste encore, hein, il y a 600 millions de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'électricité, essentiellement en Afrique, et donc c'est une préoccupation. Alors quand on regarde comment est fabriquée cette électricité, eh bien vous voyez, en marron, en bas, c'est le charbon. Donc à presque 40%, les chiffres de 2018 montreront que ce sera probablement 38%. Mais à peu près 40% de toute l'électricité fabriquée dans le monde est faite avec du charbon. Alors c'est très variable d'un pays à l'autre. Vous voyez ensuite en rouge, c'est le pétrole. On fait de moins en moins d'électricité avec le pétrole. Vous voyez, on en faisait, mais on en fait de moins en moins. Ensuite, vous avez évidemment une partie importante de gaz naturel. Le gaz naturel a remplacé le pétrole dans la production d'électricité. Vous avez ensuite l'hydraulique. Et puis en jaune, vous avez orange, vous avez le nucléaire, hein, mais qui se stabilise. Et puis les énergies renouvelables. Vous voyez, les énergies renouvelables, à l'échelle mondiale, ça reste relativement modeste. Alors évidemment, d'un pays à l'autre, c'est très différent. La Chine, actuellement, 65% de son électricité est faite avec du charbon. En Inde, c'est plus proche de 75%. Aux États-Unis, c'était jusqu'en 2008 50%. C'est pour ça que je vous dis que le charbon, c'est important aux États-Unis. D'ailleurs, le lobby du charbon est important, y compris sur le plan électoral aux États-Unis. Parce qu'il y a énormément de réserves de charbon. En plus, c'est du très bon charbon. C'est du charbon souvent produit à ciel ouvert. On l'extrait dans des mines à ciel ouvert. C'est pas comme en France, des mines à 1200 mètres de profondeur avec des veines coupées. C'est pas du tout ce genre de charbon. C'est du charbon, je dirais, en général de très bonne qualité, assez facile à extraire avec des coûts relativement bas. Et jusqu'en 2008, 50% de l'électricité aux États-Unis s'était fait avec du charbon. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est la révolution du gaz de schiste. Donc c'est le gaz qui a remplacé le charbon. Donc aujourd'hui, le charbon est passé sous la barre des 30% et le gaz est monté au-dessus de 30%. Aujourd'hui, la première façon de faire de l'électricité aux États-Unis, c'est le gaz naturel. 31%, 32%, le charbon étant un petit peu en dessous de 30%, 29, 30%, ça dépend des statistiques. Alors ce charbon américain qui ne trouve plus de débouchés aux États-Unis, d'ailleurs les mines, beaucoup de mines aux États-Unis ont été fermées, ce charbon américain qui ne trouve plus de débouchés, il vient en Europe. Alors une situation paradoxale. Le gaz chasse le charbon de la production d'électricité aux États-Unis et le charbon américain vient en Europe, assez bon marché, et chasse le gaz de la production d'électricité. On a fermé beaucoup de centrales à gaz en Europe parce que le charbon est moins cher que le gaz. Alors ce n'est pas le cas en France, parce qu'en France on a 4 mines de charbon, pour l'instant encore en fond. On n'a que 4 centrales à charbon en fonctionnement, il n'y a plus de mines de charbon. Hein. Depuis 2004, on n'extrait plus une tonne de charbon en France, c'est fini. Hein. La dernière mine c'était la Ouf 2004, qui a fermé en 2004. Mais il y a encore 4 centrales à charbon en France. Mais en Allemagne, par contre, il y a pas mal de centrales au charbon, de centrales lignite, parce que les Allemands ont beaucoup de lignite, très très bon marché, meilleur marché que le charbon, plus polluant que le charbon d'ailleurs, mais enfin bon, ils ont beaucoup de lignite. Et on s'aperçoit que, eh bien, dans certains cas, ils utilisent du charbon importé américain parce qu'il est moins cher que le gaz venu de Russie. Donc, il faut voir que l'aspect économique, de ce point de vue, est relativement déterminant. Alors si je regarde la structure de la production d'électricité dans l'Union européenne des 28, alors, il y a encore l'Angleterre, hein, dans l'Union européenne des 28, aujourd'hui c'est vrai que les premiers chiffres montrent que ce sont les renouvelables qui sont devant le charbon. Le charbon c'est 19%, un petit peu moins de 20%, le gaz c'est un petit peu moins de 19%, le nucléaire c'est encore 25%, et les renouvelables c'est 32%, mais attention, vous avez beaucoup d'hydraulique. Et il y a quand même pas mal d'éoliens, parce qu'on a construit beaucoup d'éoliennes. Le solaire, ce n'est que 4%. C'est dans l'ensemble de l'Union européenne. On va le voir, c'est très différent d'un pays à l'autre. Il faut avoir en tête quand même qu'on a beaucoup construit de centrales éoliennes et de centrales solaires en Europe. Il y a aussi pas mal de biomasse. Il y a des pays qui utilisent pas mal la biomasse pour produire de l'électricité. Il faut quand même rappeler que si on regarde maintenant les émissions de CO2 par kilowattheure produit, de loin, évidemment, c'est le charbon qui émet le plus de CO2. Donc, si vous voulez, vous avez ce qu'on appelle l'énergie décarbonée. Alors ça, ce sont des chiffres qui ne sont pas... Ce n'est pas des chiffres, je dirais, EDF, c'est des chiffres du GIEC. Donc, on ne peut pas accuser d'avoir des chiffres... C'est des chiffres scientifiques, de toute façon, personne ne peut contester ce genre de chiffres. Mais enfin, c'est même repris du rapport du GIEC. On voit bien que l'éolien, le nucléaire, l'hydraulique, le solaire, un petit peu plus, la géothermie, le solaire PV, un peu plus, parce qu'il y a indirectement, il y a quand même des émissions. Et puis, bien sûr, le gaz et le charbon émettent beaucoup de CO2. Donc, si on veut décarboner l'électricité, évidemment, il faut utiliser plutôt soit de l'hydraulique, soit du nucléaire, soit des renouvelables autres. Alors, le premier pays qui, évidemment, fabrique de l'électricité solaire, j'ai mis volontairement ce chiffre sur le cas du solaire, à la fois les 10 premiers pays en production cumulée et en production annuelle. Alors, vous voyez que les 10 pays en production cumulée, c'est quand on regarde sur la droite, et à gauche, c'est la production annuelle de 2016. Bien sûr, de loin, c'est la Chine. La Chine, c'est un pays très intéressant à étudier. La Chine construit tout. La Chine, ils construisent des centrales à charbon encore, beaucoup de centrales à gaz, beaucoup de centrales éoliennes, ils ont construit énormément d'éoliens, beaucoup de centrales solaires. Parce qu'ils ont une demande qui augmente très fortement du fait de la population et du fait des besoins. La Chine s'enrichit. Ils ont tellement d'ailleurs construit de centrales, y compris de centrales éoliennes, qu'il y a des moments, ils ne savent pas quoi en faire et certaines ne sont même pas raccordées au réseau. Il faut savoir qu'en Chine, ils ont construit beaucoup de centrales solaires et de centrales éoliennes dans le nord-ouest de la Chine, alors que la consommation est plutôt dans le sud-est de la Chine. Et donc, ils n'ont pas les moyens toujours de transporter cette électricité. Alors, vous avez des constructions de mines, de centrales solaires ou de centrales éoliennes, surtout des éoliennes, qui ne sont même pas raccordées au réseau parce que, je dirais, on n'a pas construit le réseau qui compte. Et alors, il y a un projet à l'heure actuelle des Chinois. Ils veulent envahir à peu près tout. Hein. Il y a un projet des Chinois. Bon, pour l'instant, c'est, je dirais, un projet un peu lointain. Mais il faut toujours réfléchir quand les Chinois parlent. Il faut quand même les écouter. Et donc, il y a un projet qui consisterait à transporter de l'électricité jusqu'en Europe. Ils disent, mais nous, on peut vous fournir de l'électricité renouvelable à travers un réseau à très haute tension. En fait, c'est ce qu'on appelle l'ultra haute tension. C'est-à-dire 1 100 000 volts, alors que en général, les réseaux en haute tension, c'est 400 000 volts, éventuellement 800 000 volts. Mais là, ils en sont à 1 100 000. 1 100 000 volts. Alors, vous allez me dire, sur une longue distance, il y a des pertes en ligne importantes. Ils estiment que les pertes en ligne ne dépasseraient pas 7%. Et donc, avec le coût de départ, ils disent, on pourra un jour alimenter l'Europe. Bon, on n'en est pas là, d'autant que je ne suis pas certain que les Européens seraient prêts à acheter l'électricité directement en Chine. C'est quand même un produit stratégique. Mais ça vous donne une idée un petit peu de la volonté chinoise aujourd'hui, eh bien, d'investir un peu dans tous les pays européens. D'ailleurs, ils investissent, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, ils investissent beaucoup en Europe, y compris dans les réseaux européens. Alors, si on se met toujours à l'échelle mondiale et qu'on regarde le futur, on s'aperçoit que les pays où la demande d'énergie va augmenter, évidemment, c'est pas une surprise, c'est la Chine, l'Inde, l'Afrique, le sud-est asiatique. Et en principe, en revanche, on s'attend à ce que la demande ait tendance à baisser dans les pays industrialisés, notamment de l'Union européenne et même des États-Unis, voire du Japon. Je signale, je viendrai tout à l'heure à la programmation pluriannuelle en France, on prévoit une diminution de la consommation d'énergie. Alors que jusqu'à maintenant, la tendance était toujours de penser qu'on allait augmenter la consommation. Alors pourquoi la consommation va augmenter? Surtout en Inde, à cause de la pression démographique. Pourquoi en Afrique? À cause de la pression démographique. Même en Chine. Hein, donc il ne faut pas oublier que là, il y a une pression démographique très très forte en Afrique et une pression démographique très forte en Inde, puisque la population indienne va, par la force des choses, dépasser la population chinoise. Donc, où est-ce qu'on va construire de l'électricité? Alors là, c'est la production d'électricité prévue par, je dirais, les grands organismes comme l'Agence internationale de l'énergie. Alors, évidemment, pour l'instant, c'est des perspectives assez lointaines. On s'aperçoit que c'est la Chine, on s'aperçoit qu'on en construit un peu partout. Hein, mais la Chine, évidemment, est un pays où on va construire beaucoup d'électricité, à la fois au niveau de la production et au niveau des réseaux. Alors le nucléaire dans l'affaire, le nucléaire, sa part dans la production d'électricité mondiale a eu tendance à baisser par rapport aux chiffres qui avaient été atteints en 1996. Aujourd'hui, on est à peu près à 10,5%. Donc il y a eu une légère baisse de la part de la production d'électricité d'origine nucléaire dans la production d'électricité totale. Bon, ça veut dire qu'on a mis hors circuit plus de centrales qu'on en a construit. On en construit toujours, je vais y venir, mais le nucléaire aujourd'hui n'a pas vocation à, je dirais, remplacer à grande échelle le charbon. De toute façon, avec les centrales en construction, on ne pourrait pas remplacer, je dirais, tout le charbon qu'on voudrait arrêter au niveau des centrales. C'est impossible. Donc, de toute façon, il faudra bien qu'on utilise une autre solution. L'autre solution, ça peut être le gaz, bien évidemment, parce que le gaz émet beaucoup moins de CO2 que le charbon. Alors, je vous ai mis, regardez juste la colonne à l'extrême droite, ce sont aujourd'hui les centrales les unités en construction, les centrales nucléaires en construction dans le monde. Il y en a 58. Bon, il y en a 58. Alors, où est-ce qu'on en construit? Ben, vous voyez, ça ne vous surprendra pas. On en construit en Chine, hein, on en construit en Russie, on en construit en Corée. On en construit 4 dans les Émirats arabes unis. Mais évidemment, les pays où on construit des centrales, aujourd'hui, c'est l'Asie, c'est la Russie. Et puis, de temps en temps, il y en a quelques-unes dans tel ou tel pays. Donc, ce n'est pas énorme, 58 réacteurs en construction. Le nucléaire, aujourd'hui, souffre, si vous voulez, d'une certaine image et du fait que beaucoup de pays ont décidé soit de sortir du nucléaire, soit de ralentir le poids du nucléaire. J'aurai l'occasion d'y revenir quand je vais parler du cas français. Alors, si on regarde les coûts, parce qu'évidemment, un des arguments, c'est quel est le coût de production des différentes sources d'électricité ou différentes sources d'énergie. Alors, si je regarde l'électricité, il n'y a pas un chiffre, bien évidemment. Les économistes calculent ce qu'on appelle le coût moyen actualisé, c'est-à-dire qu'on fait un calcul sur l'ensemble de la durée de vie de la centrale pour voir à combien ça revient. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, vous voyez que les chiffres sont assez larges. Ça dépend. L'hydroélectricité, c'est entre 40 et 120, c'est des dollars. C'est des euros par mégawattheure. Donc des euros par mégawattheure, 40 à 120 euros par mégawattheure, ça fait 4 à 12 centimes par kilowattheure. Hein. Voilà, pour donner un ordre de grandeur. On voit que le solaire, il peut passer entre 55 et 160. Alors évidemment, le prix n'est pas le même si vous construisez une centrale solaire dans le désert d'Atacama au Chili ou si vous la construisez dans la région de Fessenheim. Hein, on veut faire des centrales solaires dans la région de Fessenheim, le coût de production il sera quand même plus élevé que dans le désert d'Atacama au Chili. Bon. Mais le nucléaire nouveau, on est plus proche de 100, il clean point, c'est un petit peu plus de 100 euros le mégawattheure. Donc, l'éolien offshore, on est entre 100 et 160. Donc, on voit quand même que les renouvelables, le coût de production, a chuté fortement grâce aux aides dont il a bénéficié. Ce qu'il faut quand même mentionner, c'est que dans ce type de centrale, vous avez deux catégories complètement différentes. Et ça, c'est très important pour un économiste ou pour un gestionnaire, de réseau. Vous avez des centrales qu'on appelle pilotables et des centrales qu'on appelle non pilotables. Centrale pilotable, ça veut dire que vous pouvez décider de la faire marcher quand vous en avez besoin. Elle suit la demande. Les centrales non pilotables, c'est l'inverse. Il faut que la demande suive la centrale. C'est facile à comprendre. Le soleil, il n'y en a pas tout le temps. Bon. Le vent, il n'y en a pas tout le temps non plus. Donc le soleil et le vent, ça s'appelle des centrales non pilotables. Les équipements non pilotables, ça veut dire qu'on les fait marcher. Donc quand il y a du vent, quand il y a du soleil, quand il n'y en a pas, il faut trouver autre chose. Il faut des centrales pilotables. Alors si on a des centrales non pilotables, la solution évidemment c'est de stocker quand on en a trop et de déstocker quand on n'en a pas assez. Bon, le problème c'est qu'aujourd'hui on ne sait pas stocker à grande échelle dans des conditions économiques l'électricité. On sait le faire à petite échelle, on sait le faire à grande échelle aussi, mais dans des conditions qui sont relativement coûteuses. Donc un des progrès attendus, c'est un progrès au niveau du stockage de l'électricité. Alors aujourd'hui, le stockage, il peut se faire de deux façons. Soit les batteries, alors on compte beaucoup sur les batteries, par exemple, qui seraient des batteries utilisées par les véhicules électriques, hein, qui, quand ils ne fonctionnent pas, peuvent servir en quelque sorte de stockage. Ou alors, c'est ce qu'on appelle le power to gas, ça consiste à faire l'électrolyse de l'eau, c'est très simple, on fait l'électrolyse de l'eau, on a de l'hydrogène, soit on stocke l'hydrogène, soit vous associez du CO2 à de l'hydrogène, vous obtenez du CH4, vous obtenez à ce moment-là du méthane. Sauf que vous avez un problème de rendement. Parce que si vous faites l'électrolyse de l'eau pour avoir de l'hydrogène, vous pouvez utiliser l'hydrogène tel quel. Vous pouvez l'injecter dans un réseau de gaz. Bon, à condition que ça ne dépasse pas un certain pourcentage. Mais si ensuite... Alors vous pouvez ensuite réutiliser cet hydrogène pour faire de l'électricité avec des piles à combustible. Ou alors si vous passez au méthane, c'est plus compliqué parce qu'il faut avoir du CO2 pas trop loin, sinon c'est coûteux. Si vous voulez ensuite repasser à l'électricité... Si vous prenez toute la chaîne des rendements, c'est la faute à Carnot, hein, si vous prenez toute la chaîne des rendements, à l'arrivée, c'est pas très bon. Hein. Donc aujourd'hui, le power to gas, c'est un petit peu quelque chose qu'on a en tête, qui se développe, mais on sait que c'est pas la solution miracle. Il y a des progrès importants à faire, notamment de baisse des coûts pour que ce stockage soit rentable. Alors là, je vous ai mis le mix de production électrique de différents pays européens. C'est intéressant, regardez l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie. Alors en rouge, vous avez le nucléaire. Bon, la France, la part du nucléaire, comme vous le savez, est importante, hein, c'est un peu plus de 70%, c'était 75%, maintenant c'est plutôt 72%. Il y en a en Allemagne, mais on ferme les centrales en 2022, en principe, toutes sont fermées. Le Royaume-Uni a également du nucléaire, ils veulent en construire davantage, même si aujourd'hui il y a quelques difficultés, puisque Hitachi vient de sortir. Enfin, il y a toujours le projet français, le projet avec les Chinois et les projets chinois qui sont en arrière. Et puis, vous avez l'Espagne, où il y a toujours du nucléaire. Par contre, vous n'avez pas de nucléaire en Italie. Donc, il y a des pays avec nucléaire, des pays sans nucléaire, et des pays qui ont décidé de maintenir le cap nucléaire, des pays qui ont décidé de sortir du nucléaire. C'est notamment le cas de l'Allemagne. Alors, ce qu'on observe, ce schéma est intéressant, c'est que, eh bien, suivant la structure, c'est la structure du bilan électrique des différents pays. Alors, ça va de la Norvège à l'Afrique du Sud, et vous avez la quantité de CO2, donc la quantité de carbone, si vous voulez, dans le kilowattheure. Alors, plus vous êtes sur la droite du graphique, plus, évidemment, l'électricité est carbonée. Alors, elle est carbonée pourquoi ? Ben, regardez l'Afrique du Sud, parce que l'essentiel est fait avec du charbon. À l'inverse, en Norvège, les Norvégiens, eh bien, ils ont une électricité, je dirais, complètement décarbonée parce qu'ils font que de l'hydraulique. Les Norvégiens, ça ne veut pas dire qu'ils émettent pas de CO2 parce qu'ils produisent beaucoup de gaz, ils produisent du pétrole, mais ils l'exportent. Hein, ils utilisent très peu de leur pétrole et de leur gaz. Hein, ils l'exportent très largement. Mais leur électricité, elle est faite avec de l'hydraulique. Donc, elle est très décarbonée. Pareil pour la Suisse, il y a du nucléaire en Suisse. Hein. La Suède, pareil, la Suède, c'est meilleur que la France parce qu'ils ont plus d'hydraulique que nous. Donc, ils ont du nucléaire comme nous, mais ils ont en plus beaucoup d'hydraulique. Et la France, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de nucléaire. Et puis, vous voyez, évidemment, l'Allemagne est plutôt sur la droite, le Japon, la Russie, la Chine, l'Inde, évidemment. Et bien sûr, le dernier de la classe, là, c'est l'Afrique du Sud. Donc, on voit que l'électricité est plus ou moins carbonée en fonction de la structure du bilan, évidemment, et des choix. Alors, ces choix, ils sont le produit de l'histoire, ils sont le produit de la géographie aussi. Hein. C'est-à-dire que si vous avez des ressources, les États-Unis, ils ont des ressources, c'est un pays béni des dieux énergétiques. Ils ont beaucoup de charbon, ils ont beaucoup de gaz, ils ont beaucoup de pétrole. Hein. Notamment, maintenant, le pétrole, ce qu'on appelle le pétrole de schiste, le pétrole non conventionnel. Les États-Unis, aujourd'hui, sont le premier producteur de pétrole, et on pense que d'ici 2025, certains pensent, c'est pas encore acté, mais enfin, on pense que d'ici 2025-2030, les États-Unis pourraient devenir exportateurs nets de pétrole brut. C'est-à-dire qu'ils produiraient plus de pétrole que la Russie et l'Arabie Saoudite ensemble. Aujourd'hui, vous avez trois pays qui comptent sur le marché du pétrole. Le prix du pétrole, il dépend de la stratégie de trois pays. Les États-Unis, la Russie et l'Arabie Saoudite. Alors, il y a à peu près une entente entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Et les États-Unis troublent le jeu parce qu'ils produisent de plus en plus. Donc les autres, ils essayent de réduire la production de pétrole pour maintenir des prix assez hauts. Le prix du pétrole n'est pas très haut, il est à $62 le baril. C'est pas tellement élevé. Il a chuté, mais là, $60 le baril, c'est pas très élevé. On est monté beaucoup plus. Hein. On est monté à plus de 140. Donc, la Russie et l'Arabie Saoudite essayent de ne pas trop produire pour essayer de maintenir, pour éviter la chute des prix, de maintenir un prix relativement rémunérateur, mais les États-Unis produisent de plus en plus. Et on estime qu'avec leur potentiel de pétrole dit non conventionnel, ils pourraient en effet demain produire encore plus et dépasser, si vous voulez, la production à la fois de la Russie et de l'Arabie Saoudite. C'est pas... Tout le monde n'est pas nécessairement d'accord avec ce diagnostic. Mais c'est une hypothèse qui est envisageable. Alors qu'il y a quelques années, on pensait que les Américains allaient devoir importer de plus en plus de pétrole. Ce qui explique qu'aujourd'hui, si vous voulez, c'est un pays qui a la chance d'avoir énormément d'énergie sur son territoire, y compris d'ailleurs des renouvelables, hein, suivant les régions. Mais c'est un pays qui a beaucoup de charbon, qui a beaucoup de pétrole, qui a beaucoup de gaz. Voilà. Et donc ça explique beaucoup la politique américaine, je dirais, à l'international, y compris d'ailleurs au Proche-Orient, parce que les États-Unis peuvent se passer maintenant du Proche-Orient. Les États-Unis, pendant longtemps, étaient très tributaires des approvisionnements au Proche-Orient. C'est plus le cas. Ils le sont encore un peu, mais le principal fournisseur, c'est plus du tout le Proche-Orient. Alors, l'Union européenne n'est pas du tout dans cette situation. Nous, on dépend beaucoup de l'énergie. Vous voyez, on dépend de l'énergie. On importe 90% de notre pétrole. On importe 66% de notre gaz. On importe 42% de notre charbon. Et on importe 40% de notre uranium. Alors, vous allez me dire, tiens, on ne savait pas que je produisais autant d'uranium en Europe. La réponse, c'est qu'on recycle beaucoup d'uranium. Hein. Donc, une grande partie de l'uranium utilisé, c'est en fait de l'uranium recyclé. Hein. Donc, il y a assez peu d'uranium produit sur le territoire européen. Par contre, il y a beaucoup d'uranium recyclé, ce qui explique qu'en fait, on n'en importe que 40% des besoins. Alors, si je passe au cas français, ça, c'est le bilan primaire de la France. Alors, bilan primaire, il faut juste comprendre que c'est toute l'énergie agrégée sur la base de statistiques sur lesquelles tout le monde n'est pas nécessairement d'accord, mais on évalue tout en tonnes d'équivalent pétrole. Il y a 60 ans, 70 ans, on évaluait tout en tonnes d'équivalent charbon. Évidemment, le charbon était dominant. Aujourd'hui, c'est en tonnes d'équivalent pétrole qui reste quand même la première énergie. Alors vous voyez que le nucléaire, sur cette base-là, apparaît très haut. 40% de toute l'énergie primaire de la France est du nucléaire. Le pétrole, c'est 30%, pour faire simple. Le gaz, c'est 15%. Bon, le charbon, c'est 3%, 4%. Et puis, vous avez les renouvelables avec de la biomasse solide. Hein. Il y a beaucoup de bois, plus que ce qu'on pensait d'ailleurs. Vous avez de l'hydraulique, hein. Vous avez des biocarburants, un peu d'éolien et puis un peu de solaire. Voilà. Donc, la France, si vous voulez, en énergie primaire, je dirais, est bien pourvue grâce au nucléaire. Mais évidemment, l'énergie primaire, c'est une façon de compter. Certains disent, l'énergie primaire, vous vous mettez à l'entrée du système énergétique, mais vous avez ensuite toutes les pertes liées au secteur énergétique. Donc il faut enlever toutes ces pertes et donc raisonner sur l'énergie finale. Donc ça, c'est une controverse assez courante, hein. Ce qui explique d'ailleurs que quand il y a des débats à la télévision, les gens s'empoignent sur les statistiques. En fait, ils ont raison tous les deux et tort tous les deux, parce qu'il y en a qui raisonnent en énergie primaire et l'autre qui répond en énergie finale. Ils ne risquent pas de s'entendre, mais c'est un peu ça le problème, c'est qu'on ne parle pas toujours des mêmes chiffres. Alors si je parle en énergie finale, c'est-à-dire cette fois, j'enlève toutes les pertes du secteur énergétique. Le secteur énergétique, il commence par consommer de l'énergie pour en produire, pour faire simple. Quand on transporte, produit de l'énergie, bah, les rendements de Carnot font que on a des pertes. Et pareil quand on transporte, quand on distribue. Donc si je raisonne en énergie finale, c'est-à-dire l'énergie vendue sur le marché, toujours en millions de tonnes d'équivalent pétrole en France, on voit que la première énergie, c'est les produits pétroliers. Ce sont les produits pétroliers raffinés. Vous n'achetez pas du pétrole brut, vous achetez de l'essence, vous achetez du diesel, etc. La deuxième, c'est l'électricité, 23%. La troisième, c'est le gaz naturel, 19%. Voilà, ensuite, il y a des déchets, un peu de charbon. Donc, il faut toujours replacer la perspective. L'électricité, ce n'est que, suivant les pays, entre 22, 23 et 25% de toute l'énergie finale consommée. Donc, la première source d'énergie pour le consommateur final, c'est bien les produits pétroliers. Ce sont les produits pétroliers. N'oublions jamais ça. Donc, c'est important pour une politique énergétique. Parce que quand on dit qu'il faut faire une transition énergétique, tout le monde dit « Ah oui, l'électricité ». Mais non, il faut commencer par les produits pétroliers. Quels sont les deux secteurs qui vont compter? C'est le bâtiment et c'est le transport. Bien devant l'électricité. Donc, si je regarde maintenant la production d'électricité. La production d'électricité française, ça c'est des chiffres de 2017. Vous voyez, le nucléaire apparaît pour 72% à peu près, l'hydraulique 10%, on a beaucoup d'hydraulique, hein. Et puis ensuite vous avez un peu de gaz, un peu d'éolien, un peu de soleil, un peu de solaire, un peu de charbon, il y a toujours les 4 centrales, et puis on a en réserve une centrale ou deux au fioul pour passer la pointe éventuellement. Donc la France a une électricité qui a plus de 90% décarbonée, si vous ajoutez le nucléaire, l'hydraulique, l'éolien, le solaire, et les bioénergies, la biomasse, vous dépassez les 90%. Alors ça, c'est la facture énergétique française. Bon, alors vous voyez, elle augmente ou elle baisse en fonction du prix du pétrole, bien évidemment, de la quantité importée, mais c'est surtout le prix qui va être déterminant. Et puis vous avez en jaune quelque chose en dessous de l'axe des abscisses, c'est le fait qu'on exporte de l'électricité, donc là c'est plutôt dans l'autre sens, c'est positif, hein, c'est un avantage pour la balance commerciale française. Donc, toutes les énergies, on importe. La France est très tributaire du marché international. On importe quasiment 100% du pétrole, on importe 100% de notre gaz, et on importe 100% de notre charbon. Hein, tout est importé. Hein. Il n'y a que l'électricité qui est nationale. Donc c'est important d'avoir ça en tête, quand même, pour la politique énergétique. Alors, qu'est-ce qui a été déterminant dans la politique énergétique européenne? C'est le marché. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est produit, c'est que pendant longtemps, on avait une situation assez simple. C'est une entreprise qui produisait l'électricité, qui la transportait, la distribuait. Et puis, la Commission européenne, avec les directives, il y avait un consensus politique, bien évidemment, considère qu'il faut ouvrir à la concurrence. Et donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait des monopoles. Au fond, l'idée, c'est la concurrence, c'est une bonne chose. Il faut éviter les positions dominantes. Il faut éviter surtout ce qu'on appelle l'abus de position dominante. On a encore eu la preuve cet après-midi, puisque la commissaire européenne a refusé la fusion entre Alstom et Siemens. Ce qui montre, évidemment, en position dominante en Europe, mais dans le monde, par rapport aux Chinois, ils ne sont pas en position dominante. Enfin bon, ça c'est la vision, je dirais, purement juridique de la Commission européenne qui est focalisée complètement sur la concurrence, la concurrence, la concurrence. Voilà. Donc au nom de la concurrence, on fait beaucoup de bêtises d'ailleurs. Donc il faut savoir, qu'on va le voir, que c'est que pour l'électricité, le marché ne peut pas fournir tous les prix parce que certains prix doivent être régulés. Alors on va le voir, C'est un système, je ne veux pas développer ça parce que ça va être un peu la perspective que je vais présenter. On va voir que quand on parle du coût du mégawattheure, il ne faut pas se contenter de regarder le prix de revient à la sortie de la centrale. Et c'est vrai notamment si on prend les renouvelables. Il faut regarder le coût des subventions qui ont été accordées. Et notamment pour les renouvelables, aujourd'hui, il faut avoir conscience qu'on les aide à travers des subventions qu'on appelle des prix d'achat garantis. Il faut tenir compte du coût de stockage. Il faut tenir compte du fait que si vous arrêtez certaines centrales, c'est autant de moins qui est produit. Moi, je suis toujours frappé aujourd'hui d'entendre dans la position un peu officielle, le nucléaire est devenu flexible. On entend même ça à EDF. Le nucléaire est devenu flexible, ce serait une bonne chose. Il est devenu flexible, il laisse passer les renouvelables. C'est-à-dire qu'on arrête du nucléaire pour laisser passer les renouvelables. Moi, je n'appelle pas ça de la flexibilité, j'appelle ça de l'éviction. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, on arrête des centrales nucléaires pour laisser passer des centrales solaires ou d'électricité éolienne. Ça peut se discuter, parce que le facteur de charge du coût du nucléaire a tendance à baisser, donc le coût de production du kilowattheure nucléaire a tendance à monter. Alors, ça peut être pour d'autres raisons, j'y reviendrai, mais si vous voulez, cette idée que, finalement, il y a des coûts qu'on ne comptabilise pas, il y a des coûts liés à l'intermittence, il y a des coûts liés à l'éviction, c'est-à-dire le fait de fermer des centrales, il y a un coût pour ceux qui les ont construits. Il y a des coûts environnementaux, bien évidemment, c'est le coût du CO2. Hein. Alors aujourd'hui, il est faible, le prix du CO2 a tendance à monter, mais pour des raisons, on l'a vu, politiques, il ne va pas monter autant que ce qui était souhaitable, sauf peut-être sur le marché du carbone pour les électriciens, mais enfin pour l'instant il n'est pas très élevé. Alors on a aidé beaucoup les renouvelables à travers des prix d'achat garantis, ce qu'on appelle des feed-in tarifs, hein, c'est un terme anglais. Les prix d'achat garantis, c'est vous avez du solaire ou de l'éolien, vous vendez à un prix fixé par arrêté ministériel. Ce prix, il est au-dessus du prix du marché. Alors il faut savoir que l'ouverture à la concurrence a fait qu'on a créé un marché spot de l'électricité, c'est-à-dire qu'il existe, on vend de l'électricité sur un marché, heure par heure, tous les jours. Donc il y a 24 prix par jour, on fixe les prix la veille pour le lendemain, et bien évidemment, le prix du marché, il est très volatile. Hein. La semaine dernière, ou il y a 10 jours, il est monté à 108 euros le mégawattheure, c'est relativement élevé, mais il peut tomber à 40 euros, 30 euros même, ou même parfois moins, le mégawattheure. Bon. Et donc, l'électricité éolienne et l'électricité solaire est vendue à un prix qui est fixé par arrêté ministériel, qui est au-dessus en général de ce prix. Et ça permet, en quelque sorte, ça a permis de développer fortement, grâce à la production importante, aux économies d'échelle, ça a permis de développer à grande échelle la production de solaire et d'éolien. On l'a fait dans tous les pays. Alors, en Europe en particulier, c'est en bleu. On le voit bien, tous les pays européens ont choisi cette solution. Ça part d'un bon principe, il faut aider les renouvelables. Alors, soit on les aide avec de la recherche, soit on les aide en les achetant à un prix supérieur au prix du marché. Voilà. On a fait la même chose avec la politique agricole commune. Hein. Exactement le même principe. C'est-à-dire, les produits agricoles européens étaient vendus à un prix qui était bien supérieur au prix du marché international. Et on a mis en place un système d'écluses. C'est-à-dire que quand les produits étrangers rentraient en Europe, ils étaient taxés pour monter au niveau européen. Quand les produits européens voulaient aller sur le marché international, on les subventionnait pour qu'ils soient compétitifs. Alors au début c'était très bien parce que on importait beaucoup plus de produits qu'on en exportait. Donc il y avait des taxes qui rentraient, c'était très bien. Sauf qu'à un moment donné on a tellement surproduit de produits agricoles que pour pouvoir écouler tous ces produits agricoles sur le marché international, il fallait les subventionner. C'est un peu le même problème qu'on a trouvé avec l'électricité et les feed-in tarifs, c'est-à-dire qu'en fait à force de subventionner, eh bien ça coûte très cher aux consommateurs, on va le voir. Alors le problème, il est le suivant, c'est que si vous injectez de l'électricité éolienne, mais c'est vrai aussi pour le solaire, ça va faire baisser le prix sur le marché de gros, parce que cette électricité, elle est payée hors marché, elle est subventionnée, elle est payée hors marché. Donc, elle vient participer aux enchères sur le marché de gros, elle fait baisser le prix, puisqu'elle vient à prix zéro, c'est-à-dire qu'elle ne coûte rien sur le marché. Elle fait des enchères à prix nul. Hein, mais alors du coup, comme elle fait des enchères à prix nul, bien évidemment, ça fait baisser le prix d'équilibre du marché. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez payer votre électricité moins cher, parce qu'il faut subventionner cette électricité. Plus le prix du marché de gros diminue, plus l'écart entre le prix garanti et le prix du marché de gros augmente. Et à ce moment-là, ce sont les taxes qui augmentent. Donc vous avez un système où, à certains moments, on a pu voir qu'il y avait tellement d'électricité injectée qu'on a même vu des prix négatifs. Alors ça doit faire... En général, ça fait toujours rigoler les étudiants quand on leur explique ça, parce qu'on leur explique à l'université que, en général, si vous voulez acheter un produit, vous payez ce produit. Hein. Bon. Ben, dans l'électricité, des fois, il y a des prix négatifs. C'est-à-dire qu'on vous paye pour acheter l'électricité. quand il y a trop de production d'artichauts en Bretagne, les producteurs d'artichauts, des fois, ils détruisent une partie de la production pour éviter la chute des cours. Eh bien, dans l'électricité, quand il y a trop d'électricité injectée, par exemple, à cause des Allemands et des éoliennes allemandes, en pleine nuit, il n'y a pas de demande d'électricité suffisante, il y a trop d'électricité. Ben, il faut arrêter les éoliennes. Ah oui, mais ceux qui ont des éoliennes disent non, nous on est payés quand on injecte. Et la cour allemande et la Cour européenne disent non, mais il y a un contrat sur 15 ans qui dit qu'ils sont payés tel prix quand ils injectent, donc il faut les payer. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait ? Ben, il faudrait arrêter une centrale thermique. Ah oui, mais si j'arrête une centrale thermique pendant 2 heures, que je la remets en marche ensuite, au moment où ça va être intéressant, je ne serai pas nécessairement capable de produire quand j'en ai besoin. Donc je maintiens ma centrale thermique. Alors il faut trouver quelqu'un qui vous débarrasse du produit. Alors c'est qui ? Ben, c'est les Suisses. Pourquoi ? Parce qu'ils ont beaucoup de stations de pompage. Donc ils prennent cette électricité, ils montent de l'eau au sommet de leur montagne, ils returbinent aux heures de pointe pour vendre de l'électricité aux Italiens. Donc, on les paye pour acheter l'électricité et la revendre aux heures de pointe. Bon, alors, je vous rassure, il n'y a pas des prix négatifs tous les jours. Mais le 1er janvier 2019, il y avait un prix négatif en Allemagne, pendant plusieurs heures. Nous, on a connu des prix négatifs en France, pas très importants, mais à cause des Allemands. C'est-à-dire qu'en fait, comme c'est interconnecté, on a des prix négatifs. Donc, on a un système, si vous voulez, bon, qui, du fait des règles du marché, fait qu'on a quand même un certain nombre d'incohérences de ce point de vue. Alors, il faut bien comprendre que sur le marché de gros dont je vous ai parlé, la logique, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'on appelle les centrales dans l'ordre, ce que les spécialistes appellent le merit order, l'ordre de mérite, c'est-à-dire c'est le coût variable. Une fois que vous avez construit un parc, vous appelez les centrales en fonction du coût variable, c'est-à-dire celle qui coûte le moins cher à fonctionner, bien évidemment. C'est pas nécessairement celle qui coûte le moins cher à construire, c'est celle qui coûte le moins cher à fonctionner. Alors, quelles sont les centrales qui coûtent rien ? Ben, c'est le solaire et l'éolien. Les coûts variables, c'est très faible, bien évidemment. Donc, de toute façon, elles seraient prioritaires. Ensuite, c'est l'hydraulique au fil de l'eau, c'est-à-dire sur la vallée du Rhône. Puisque là, vous avez une centrale, vous turbinez quand l'eau passe. Si vous ne turbinez pas quand l'eau passe, ben, elle est passée quand même. Bon. Ensuite, c'est le nucléaire. Ensuite, c'est les centrales à charbon, on le voit ici. Ensuite, c'est les centrales à gaz, c'est les centrales à cycle combiné à gaz. Puis après, c'est des turbines, des turbines à gaz. Donc, si vous voulez, ça, c'est une courbe. Et suivant le niveau de la demande, si la demande est faible, ben, la dernière centrale appelée, c'est une centrale nucléaire, par exemple, le prix de l'électricité sur le marché, il est bas. Si c'est une heure de pointe, le prix de l'électricité sur le marché, il est élevé. Ça vous explique que le prix de l'électricité, il varie suivant l'heure. Tous les jours, vous verrez que vers 19h, sur les marchés de gros, vous allez sur une application de RTE, le gestionnaire du réseau de transport, et vous avez le prix. Alors, le matin, vers 9h, le prix est assez haut, et en ce moment, et le soir, à 19h, la pointe en France est souvent à 19h, surtout en hiver, vous avez une pointe avec un prix plus élevé que dans le reste de la journée. Et donc, les centrales éoliennes et les centrales solaires sont prioritaires, mais elles seraient prioritaires de toute façon. Certes, le problème, c'est qu'elles ne peuvent pas compter sur le marché pour récupérer leurs coûts fixes. Pourquoi ? Quand le nucléaire est marginal, c'est-à-dire que quand la demande est faible, la dernière centrale appelée peut être une centrale nucléaire. Elle récupère ses coûts variables. Quand est-ce qu'elle récupère ses coûts fixes ? Je fais une chose simple. Elle récupère ses coûts fixes lorsque le même kilowattheure nucléaire est vendu aux heures de pointe sur la base du coût variable d'une centrale qui fonctionne avec du fioul ou qui fonctionne avec du gaz. Parce qu'à ce moment-là, le prix est élevé. Donc la différence entre ce prix-là et le coût variable, ça permet de financer les coûts fixes. Sauf que les centrales solaires et les centrales éoliennes, c'est pas vrai pour les éoliennes. Moins vrai pour les éoliennes. Les centrales solaires, elles sont pas présentes aux heures de pointe parce que c'est la nuit. Donc à 19h, il y a plus de soleil. Et la nuit encore moins. Donc, je dirais, à ce moment-là, elles ont du mal à récupérer leurs coûts fixes, ce qui explique qu'elles soient subventionnées. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est, on les a beaucoup subventionnées, les coûts ont baissé, mais maintenant, il faut en quelque sorte remettre les pendules à l'heure, il faut la vérité des coûts. Alors ça vous explique que le prix spot, vous voyez, il a chuté. Ça, c'est le prix du marché de gros, mais c'est, on va le voir, c'est un tiers du prix. Le prix du marché de gros, vous voyez, il était fort en 2008 parce que le prix du pétrole était très élevé. Et puis ensuite, eh bien, donc le prix de l'électricité thermique est élevé, mais aujourd'hui, le prix n'a pas arrêté de baisser sur le marché de gros. Il remonte un peu. À cause notamment du prix du carbone. Alors on voit que les prix de gros, ils sont notamment très bas en Allemagne, ça peut vous sembler étonnant, les prix de gros sont plus bas en Allemagne qu'en France. Parce que les Allemands, ils ont tellement de renouvelables qu'en moyenne, leurs prix de gros sont plutôt bas par rapport au reste de l'Europe. Alors, on a mis en place en plus un système, et ça j'ai peut-être l'occasion d'y revenir dans la discussion, je l'ai quand même mentionné, c'est que comme tout le monde n'a pas le même équipement, il a fallu aider un certain nombre d'entrants, c'est-à-dire de fournisseurs, qui n'avaient pas accès à l'électricité nucléaire. Donc, si vous voulez, lorsqu'on a mis en place la concurrence, Bon, les Français, d'ailleurs, au départ, n'étaient pas très fans. Alors, pourquoi on a mis en place un système de libéralisation avec la directive de 1996, qui est entrée en fonctionnement le 1er janvier 2000 en France, en Europe, d'une façon générale? Tout simplement parce qu'on a dit, il faut éviter les situations de monopole, et puis regarder la concurrence, c'est bien. On a fait l'expérience dans les télécommunications. Regardez les télécommunications, grâce à la concurrence, il y a eu des tas d'opérateurs, les prix ont baissé, les services ont augmenté. C'est vrai dans le transport aérien. Pourquoi on ne ferait pas la même chose dans l'électricité et dans le gaz? Sauf qu'il y a une grande différence, c'est que dans les télécoms, pour faire simple, il y a eu un progrès technique, c'est le mobile. Et donc, il n'y a pas un problème de réseau. Chaque opérateur a son réseau. Il y a eu un progrès technique très important qui fait que la libéralisation s'est accompagnée. Ce progrès technique a permis la baisse des coûts. Dans l'électricité, on n'a pas observé ce même phénomène. Et donc, on a simplement dit, il faut ouvrir à la concurrence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait un seul producteur qui produise l'électricité. Donc, il faut permettre à d'autres d'en produire. Alors, très bien, vous pouvez rentrer et faire de la production d'électricité. Sauf que, quand on a mis en place le système, on s'est rendu compte que ceux qui voulaient fabriquer de l'électricité, ils n'avaient pas les mêmes moyens qu'EDF, qui avait des centrales nucléaires meilleur marché que les centrales qui, à l'époque, fonctionnaient au fioul, ou fonctionnaient au gaz, ou fonctionnaient au charbon, parce que le prix du charbon, du fioul, était relativement élevé. Et donc, on a dit, ah oui, mais la concurrence est faussée, il ne peut pas y avoir de concurrence. Alors, on en a introduit une artificielle. Donc on a mis en place ce qu'on appelle l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique. Vous avez peut-être entendu parler, parce qu'on a beaucoup parlé dans la presse, l'AREN, l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique. Bon, il se trouve qu'il y a une commission qui a proposé ça au gouvernement. En fait, si vous voulez, quand l'ouverture à la concurrence a commencé en 2000, le prix du pétrole était relativement bas. Il était à 25 dollars le baril. Et donc, les concurrents d'EDF ont pu produire de l'électricité avec du gaz à très bon marché. Le prix du pétrole était bas, donc le prix du gaz était bas. Donc, le prix de l'électricité faite avec du gaz était bas. Donc, les concurrents d'EDF pouvaient proposer des prix plus bas qu'EDF. Et donc, EDF a perdu des parts de marché. Les concurrents ont dit, ben voilà, nous, maintenant, on peut rentrer dans l'activité de production et de fourniture. Sauf qu'à partir de 2004, le prix du pétrole a commencé à monter. Vous l'avez vu tout à l'heure, le prix du pétrole en 2008, il a atteint 147 dollars le baril. Donc il est monté, à partir de 2004, il se met à monter. Il va dépasser 100 dollars début 2008, atteindre 147 dollars en juillet 2008, redescendre à 40 dollars fin 2008. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ceux qui avaient de l'électricité thermique qui est faite avec du gaz ou du charbon n'étaient plus compétitifs. Donc, ils ont demandé, en quelque sorte, à pouvoir bénéficier du nucléaire d'EDF. Alors, on a mis en place un système compliqué qu'a proposé la commission Champsaur, et je trouve que j'étais un des membres de la commission Champsaur, consistait à dire, ben, on va obliger EDF à vendre un quart de sa production, c'est-à-dire 100 TWh sur les 400 nucléaires, à un prix qui sera le prix de revient pour EDF, et donc, comme ça, tout le monde sera à armes égales. Ça, c'est une obsession de la Commission européenne, c'est-à-dire on veut absolument, je dirais, que tout le monde parte sur les mêmes bases au départ, c'est-à-dire de la concurrence pour la concurrence. Alors, cette demande d'AREN, je dirais, elle a été modeste pendant longtemps. Elle est devenue nulle parce que ce qu'on n'avait pas prévu, je dois le dire, on n'avait même pas prévu à la Commission, c'est que le prix du marché de gros dont je parlais il y a quelques instants est tombé en dessous de l'AREN, c'est-à-dire coûtait moins cher que l'électricité nucléaire française. Donc, à ce moment-là, plus personne ne voulait d'AREN. Sauf que comme le prix du marché de gros est en train de remonter un peu, tout le monde en demande. Et cette année, pour la première fois, en 2019, la demande d'AREN a dépassé le plafond qui était prévu. Il a fallu que la commission de régulation, je dirais, fasse une attribution au prorata. Donc vous voyez, on a forcé la concurrence en mettant en place des mécanismes extrêmement compliqués. Donc on parle toujours du marché, mais en fait le marché, c'est très compliqué parce qu'il y a toujours des éléments qui perturbent en termes de régulation. Alors, l'aide aux renouvelables, ça coûte cher. Ça, c'est un rapport de la Cour des comptes qui montre que si on additionne jusqu'en 2044, parce que les contrats signés vont durer jusqu'en 2044, hein, si on additionne tous les surcoûts estimés, ça va coûter à peu près 121 milliards d'euros cumulés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous payez à peu près entre 5 et 6 milliards par an. Ça va monter à 7 milliards, on le voit, ça va monter à 7,2, puis après, ça va redescendre. Donc, si vous voulez, il ne faut pas croire que c'est gratuit. L'aide accordée aux renouvelables, vous la supportez dans le prix de l'électricité. Aujourd'hui, c'est 5,2 milliards, hein, sur payés par le consommateur français. Ça vous donne, bon, ça c'est pas très important, ça vous donne une idée de la structure du prix de l'électricité. Regardez bien le chiffre à droite, la colonne de droite. Quand vous achetez un kilowattheure aujourd'hui, 36%, c'est le coût de production d'électricité à la sortie de la centrale. 30%, c'est le coût des réseaux. Il faut la transporter sur le réseau RTE, la distribuer sur le réseau Enedis. Et 34%, c'est des taxes. Et à quoi ça correspond, ces taxes? Il y a un peu de TVA. Mais l'essentiel de ces taxes, ce sont des aides pour les renouvelables. C'est le fameux problème que je mentionnais tout à l'heure. C'est-à-dire que le prix garanti est très au-dessus du prix du marché. Et on aide à travers cette CSPE. Alors, CSPE, ça veut dire contribution au service public de l'électricité. Simplement, on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure, la CSPE n'arrêtait pas d'augmenter. Donc un jour, le gouvernement, il a fait une solution, je dirais, politiquement astucieuse, que les gens n'ont pas bien comprise d'ailleurs, qui consiste à dire on va plafonner la CSPE à 22,5 euros par mégawattheure. Donc ça ne dépassera pas 22,5. Mais et cette CSPE va être maintenant non plus affectée aux aides renouvelables, mais mise dans le budget général de l'État. Et pour financer les renouvelables, on va aller chercher une partie de la TICPE, la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques, c'est-à-dire les taxes sur l'essence que vous payez. Donc quand vous achetez de l'essence, une partie de la TICPE sert à financer aujourd'hui le surcoût des renouvelables. Et en plus, on y a mis une taxe carbone. Ce qui explique, si vous voulez, que c'est plus facile de faire monter les taxes sur l'essence que sur l'électricité. Voilà. Donc vous avez des taxes relativement importantes. Et regardez par rapport à il y a 10 ans, on voit que la part des taxes n'a pas arrêté de monter. D'ailleurs, j'avais mis un graphique. Si je vous pose la question, quelles sont les taxes qui depuis 10 ans ont le plus monté? Les taxes sur les boissons sucrées ont monté de 25%. Les carburants, 25%. Le tabac, 50%. L'électricité, 500%. Les gens oublient. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi on ne s'en rend pas compte? Pourquoi les gens ne respectent pas? Ben, pour une raison très simple. C'est que le prix de gros, il a chuté. Et les taxes ont augmenté. Principe des vases communicants. Donc, vous n'avez pas le sentiment que ça a beaucoup monté. Ça n'a pas beaucoup monté. Parce qu'il y a un tiers qui a beaucoup baissé et un tiers qui a beaucoup monté. Sauf que le tiers qui a beaucoup baissé, il met en péril ceux qui ont des centrales, et surtout il met en péril le fait qu'on a du mal à investir dans de nouvelles centrales. Donc si vous voulez, aujourd'hui, avec les prix du marché de gros, les prix qu'on voit là, que j'ai mentionné tout à l'heure, avec ces prix-là, vous ne pouvez pas construire des nouvelles centrales. Vous me direz que pour l'instant, on n'a pas besoin. Donc ce n'est pas dramatique. Mais le jour où on en a besoin, ça peut devenir dramatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, construire des nouveaux équipements, c'est coûteux. Et avec les prix du marché de gros, on ne récupère pas suffisamment pour financer les nouveaux investissements. Donc ça vous montre, si vous voulez, les prix en Europe. Là, vous avez à gauche, vous avez l'Allemagne, c'est Deutschland. Vous avez l'Allemagne. En Allemagne, le mégawattheure se vend, pour le consommateur final, se vend 300 euros. 300 euros, c'est 30 centimes d'euros le kilowattheure. Alors regardez qu'est-ce qui compte en Allemagne. C'est ce qui est en rouge, c'est les taxes. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de renouvelables, donc des taxes importantes. Regardez la France, à droite. La France, vous payez à peu près 17 centimes. 17 centimes d'euros, ben vous avez des taxes, bien sûr, mais vous en avez moins en pourcentage qu'en Allemagne. Bon, alors vous avez l'Allemagne, vous avez le Royaume-Uni, vous avez la Belgique, vous avez les Pays-Bas. Donc la structure n'est pas la même, et je dirais les choix politiques, à ce moment-là, interfèrent fortement. Alors, ça c'est l'exemple allemand, vous voyez, nous on est à 17 centimes, alors ça dépend des statistiques, on est à 17 centimes, les Allemands ils sont presque à 30 centimes, mais vous voyez tout de suite, le soutien aux renouvelables en Allemagne est extrêmement élevé. Bon, c'est un choix politique. Les Allemands sont prêts à payer pour sortir du nucléaire. Alors, c'est pas l'industriel allemand qui paye, hein, c'est le consommateur domestique. Hein, ça, c'est important. Le consommateur industriel, lui, il est exonéré très largement de ses surtaxes. Ça vous montre d'ailleurs quelque chose d'intéressant. Si vous regardez le prix de l'électricité en France et en Allemagne, regardez la déconnexion. Nous, on est en bleu, ils sont en rouge. Si vous regardez le prix du gaz, les prix, ils se suivent en France et en Allemagne. Si vous regardez le prix du carburant en France et en Allemagne, ils se suivent. Tout le monde s'approvisionne à Rotterdam. Si vous regardez le prix du fioul domestique, ils se suivent. Donc, les prix allemands, les prix français, ils se suivent pour le gaz, pour le fioul, pour les carburants, mais pas pour l'électricité. Nous, on a la chance d'avoir une électricité qui, de ce point de vue, coûte moins cher. Alors, je vous ai dit qu'il n'y avait pas que des avantages, hein, parce que, évidemment, avec les bas prix et le fait qu'on laisse passer des renouvelables, alors c'est un calcul, mais je ne veux pas le développer, sauf s'il y a une demande en discussion, c'est que, eh bien, quand vous avez des centrales classiques, soit nucléaires, soit thermiques, que vous laissez passer des renouvelables, vous avez un manque à gagner. Alors moi j'ai fait une étude qui est parue dans une revue avec un collègue du CEA où on montre qu'il y a une perte qui est relativement importante pour les opérateurs. Les opérateurs, on appelle ça pudiquement de la flexibilité, c'est-à-dire qu'en fait on appelle moins leur centrale, mais ça met en péril un peu la rentabilité. Alors ça c'est une façon de résoudre la question du stockage, c'est ce qu'on appelle le power to gas. Demain les réseaux de gaz et d'électricité sont connectés, puisqu'on peut faire, je vous l'ai dit, l'électrolyse de l'eau avec de l'électricité renouvelable, par exemple, dont on n'a pas besoin à un moment donné pour fabriquer de l'hydrogène ou du méthane. Donc il va y avoir une interdépendance plus forte entre les réseaux de gaz et les réseaux d'électricité. Sachant qu'une autre solution, c'est évidemment les batteries. Mais là, dans ce domaine, il ne faut pas se voiler la face. L'Europe n'est pas en très bonne position. Si vous regardez les producteurs de batteries dans le monde, vous voyez que c'est des Chinois, des Japonais, beaucoup de Chinois. Alors les Allemands, ils essayent de réagir en disant « on va construire une industrie de batteries ». Les Français, les Allemands disent « on va faire l'Airbus des batteries », mais ça, ça fait 5 ans qu'on en parle. Les Chinois, ils ont complètement flingué le solaire photovoltaïque européen. Ils ont quasiment flingué l'éolien. Ils sont les premiers dans ce domaine. Ils ont fait des prix de dumping, et puis, je dirais, ils ont la masse critique qui leur permet de fabriquer à grande échelle. Donc il faut voir qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est les batteries. L'enjeu, c'est les batteries et c'est les métaux rares, les terres rares qui, je dirais, accompagnent ces nouvelles technologies. Alors, la PPE. Alors ça, vous avez tous entendu parler de la PPE, puisque même le président de la République est venu l'expliquer. La PPE, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est-à-dire qu'on essaie de donner une perspective en disant, on ne peut pas faire confiance qu'au marché, il faut quand même avoir une vision sur les 5 à 10 ans qui viennent. Donc la PPE, c'est sur les 5 prochaines années, puis les 5 suivantes. Alors La France a prévu... Alors tout est ramené non pas en tonnes d'équivalent pétrole, cette fois on a tout ramené en terawattheure. On peut tout ramener en terawattheure si on veut. L'avantage dans l'énergie, c'est qu'on peut tout compter dans une même unité, par l'équivalence calorifique. Donc là, on a tout ramené en terawattheure. C'est pas que de l'électricité, hein. J'insiste bien, c'est de l'énergie. Alors vous voyez, en 2015, où on est? Et qu'est-ce qu'on prévoit? Ben, si vous allez jusqu'en 2030-2050, vous commencez par voir qu'il y a quelque chose en vert rayé. Là, c'est les économies d'énergie. C'est-à-dire qu'on fait l'hypothèse que la demande d'énergie en France va chuter fortement. C'est une hypothèse extrêmement ambitieuse, hein, puisque c'est à peu près de 50%. Moi, je ne vous cache pas, je suis très dubitatif sur ce côté très très volontariste. Alors c'est vrai que la demande d'énergie a plutôt eu tendance à rester stable ou à baisser légèrement. Mais de là à penser qu'on peut baisser d'autant, je suis un peu perplexe. Moi, j'ai présidé une commission, alors c'était il y a quelques années maintenant, hein, c'était en 2012, à la demande du gouvernement Fillon. C'est une commission qu'on a appelée le rapport énergie 2050, c'était une commission qui comprenait pas mal de monde. Le gouvernement voulait que ce soit un universitaire qui préside, on m'a demandé de présider cette commission. J'avais comme vice-président Claude Mandil, qui est l'ancien directeur général de l'énergie en France et surtout l'ancien patron de l'Agence internationale de l'énergie. On avait examiné des scénarios, parce que le gouvernement nous avait demandé d'examiner des scénarios. On continue le nucléaire, on réduit la part du nucléaire, on arrête même le nucléaire, ou on augmente la part du nucléaire un peu. Enfin bon, il y avait plusieurs scénarios. Dans tous les cas de figure, on avait pensé que la demande d'énergie, en tout cas d'électricité, ne pouvait pas rester stable, qu'elle allait augmenter. Là, on fait l'hypothèse que la demande va baisser. Alors, vous voyez, par contre, la demande d'électricité va augmenter. Si vous regardez l'électricité, c'est ce qui est en orange. Et vous voyez, en bas, ce qui est en orange va monter. C'est-à-dire qu'on va vers des usages de plus en plus électriques. Véhicules électriques, électrification croissante. Donc, si vous voulez, on fait à la fois l'hypothèse que la demande d'énergie va chuter, la demande finale va chuter fortement, près de 50%, 40-50%, mais la demande d'électricité va monter. Alors résultat, entre les deux, il y en a qui ne sont pas très bien, évidemment c'est les gaziers. Alors les gaziers ne sont pas contents, parce que du coup, le gaz, même le gaz renouvelable, il disparaît. Le gaz naturel, il disparaît quasiment, et le gaz renouvelable, même lui, il n'a pas un poids très très important. Alors il y aura un peu de chaleur, etc. Mais vous voyez, alors les hypothèses sont extrêmement ambitieuses. Donc c'est la PPE. Au fond, ça revient à dire, il y aura plus d'usage électrique, mais il y aura une demande qui va chuter. Bon, moi je suis très dubitatif sur la chute de la demande, parce que ça veut dire que cette demande, elle va chuter où? Elle va chuter dans les transports, elle va chuter dans le bâtiment. Donc on fait l'hypothèse que la demande d'énergie dans les bâtiments va fortement chuter, que la demande d'énergie pour les transports va fortement chuter. Bon, c'est pas impossible, 2050, c'est loin. Ça ne mange pas de pain, je dirais, de faire des prévisions aussi lointaines, mais ça donne quand même une idée. C'est peut-être quand même très fortement ambitieux. En même temps, on fait l'hypothèse que la demande d'électricité va monter. Les électriciens sont plutôt contents. Enfin, pas nécessairement parce que, en même temps qu'on dit la demande d'électricité va monter, on pense que la part du nucléaire doit baisser, puisque le gouvernement, comme vous le savez, a décidé que la part du nucléaire devait descendre à 50% au lieu de 72% à l'horizon 2035. Au départ, gouvernement avait prévu, c'était le gouvernement Hollande, avait prévu que c'était en 2025, c'était complètement irréaliste, parce que justement, le rapport auquel je faisais allusion, le rapport du gouvernement Fillon, la commission que j'avais présidée, nous avait dit examiner une hypothèse de 50% de nucléaire à l'horizon 2025. Et nous, cette hypothèse-là nous paraissait absolument irréaliste. Donc on avait dit, on a intérêt à prolonger les réacteurs actuels au-delà des 40 ans, aller jusqu'à 50, voire 60 ans. Bon, la position actuelle du gouvernement, c'est beaucoup plus nuancé, c'est on va réduire la part du nucléaire à 50%, non pas en 2025, mais en 2035. Bon, c'est un choix qui est un choix éminemment politique, bien évidemment. Alors voilà comment on va y aller. Vous voyez, les énergies renouvelables, progressivement, vont monter. C'est-à-dire les énergies renouvelables, c'est 40% de renouvelables à l'horizon 2030, ce qui est extrêmement ambitieux. Attention, dans les renouvelables, vous avez l'hydraulique. La France a la chance d'avoir beaucoup d'hydraulique. Mais ça veut dire qu'on va construire beaucoup d'éoliennes, c'est-à-dire qu'on va construire beaucoup de centrales photovoltaïques, bien évidemment. Alors, en même temps, si on veut pouvoir consommer moins de produits pétroliers et moins de charbon, ben évidemment, alors le charbon, ce n'est pas trop la préoccupation de la France, il faut taxer les énergies polluantes. Alors, vous payez une taxe carbone. Quand vous achetez de l'essence, à l'intérieur de l'essence, les gilets jaunes étaient là pour nous le rappeler, au cas où, quand vous achetez de l'essence, vous payez une taxe, la TICPE, et à l'intérieur de la TICPE, vous avez un élément qu'on appelle la taxe carbone, c'est-à-dire la contribution au climat et énergie. Bon. Alors, cette contribution, elle devait augmenter. Le gouvernement, pas de chance, il avait prévu qu'elle augmentait, c'était acté dans la loi. Elle devait augmenter simplement, il s'est mis à l'augmenter au moment où le prix de l'essence a lui-même grimpé. Donc évidemment, ça s'est vu. Si le prix de l'essence avait chuté, ça se serait moins vu. Mais comme le prix de l'essence avait monté parce que le prix du pétrole avait grimpé, évidemment, on remet en cause cette taxe. Alors, la taxe, ce dont je parle ici, c'est pas ça. Là, vous payez une taxe carbone quand vous achetez des produits pétroliers ou des produits qui ont un contenu carbone. Mais dans l'électricité, vous avez un marché du carbone qui est réservé aux électriciens et aux gros industriels. Sur ce marché du carbone, il est européen. C'est-à-dire qu'on donne des quotas et on vend des quotas sur un marché. Alors, on vous attribue des quotas gratuitement, des fois vous les payez au départ, et puis si vous ne les utilisez pas, vous pouvez les vendre. Si vous n'avez pas assez de quotas, vous pouvez en acheter. Alors, au début, ça a bien marché. Ça a été mis en place, c'était ça a été mis en place en 2005. En fait, ça c'est une préoccupation de la Commission européenne en 2002. Ça a été une décision qui, d'ailleurs, à l'époque, n'était pas tellement, était assez innovante. Je me souviens, c'était au sommet de Johannesburg. Moi, j'étais au sommet de Johannesburg. C'est ce fameux sommet où Jacques Chirac a fait son fameux discours, notre maison brûle, etc. Le président de la Commission européenne est monté à la tribune en disant, l'Europe va donner l'exemple, on va mettre en place un marché du carbone en 2005. C'est ce qu'on a fait. Et à l'époque, le prix du carbone était assez élevé, puisqu'il est monté à presque 35. Et puis, petit à petit, il a chuté parce qu'on a attribué trop de quotas. Donc, évidemment, quand il y a trop d'offres, le prix chute. Mais la Commission européenne vient de retirer son nombre de quotas, ce qui explique que le prix du quota a tendance à monter. Donc, aujourd'hui, on dépasse les 20 euros la tonne de CO2. Alors ça, ça fait monter le prix de l'électricité. C'est pour ça que le prix de l'électricité, le prix, je dirais, les 35% de coûts de production, ils vont plutôt avoir tendance à monter, parce que c'est le prix du carbone qui devrait faire monter. Pour peu que le prix du pétrole monte, que le prix du gaz monte, que le prix du charbon monte un peu, si le prix de la tonne de CO2 monte, il faut s'attendre à ce que le prix de l'électricité augmente un peu. Bon, mais ça, je dirais, l'avenir le dira, c'est difficile d'anticiper. Alors certains disent, pour qu'on arrête les centrales à charbon un peu partout en Europe, il faudrait que le prix du carbone soit plutôt aux alentours de 30 euros la tonne de CO2. On n'y est pas. Mais les seuls qui ont mis un prix plancher du carbone, c'est les Anglais. Alors, les Français aimeraient bien le faire, mais ils ne peuvent pas le faire sans les Allemands. Et les Allemands, vous l'avez compris, ils ne veulent pas de taxe carbone parce qu'ils ont beaucoup d'électricité avec le charbon. En Allemagne, c'est encore 40%. Donc, niet. Mais ce n'est pas la France qui va toute seule mettre un prix plancher du carbone en France. Ça n'a pas de sens, on a 4 centrales. Ce n'est pas avec ça qu'on va régler le problème. Alors, où est-ce qu'il faudrait faire porter l'accent en France? En fait, quand on regarde les gaz à effet de serre en France, par secteur, on s'aperçoit que les secteurs importants, c'est le transport et c'est le résidentiel et tertiaire, c'est les bâtiments et le transport. Donc, on est toujours omnubilé par l'électricité. C'est pas l'électricité qui produit du carbone en France. Les émissions de CO2, c'est les transports, avant tout, et c'est le tertiaire, le résidentiel, c'est les bâtiments. C'est pas la même chose en Chine, c'est pas la même chose en Inde, bien évidemment. Mais nous, notre préoccupation, si on veut réduire les émissions, on est plutôt vertueux, parce que la France, je vous ai dit, émet que 1% des émissions de CO2 à l'échelle mondiale. Si on veut réduire encore nos émissions, ce qui est louable, c'est une bonne chose, il faut faire porter l'accent sur le transport et le résidentiel. Alors le transport, évidemment, l'idéal, c'est le véhicule électrique, à condition que l'électricité soit une électricité décarbonée. Évidemment, si vous faites de l'électricité avec du charbon, vous repoussez le problème. Mais enfin, en France, elle est décarbonée. Le tertiaire, ça veut dire que vous faites de l'isolation, vous changez beaucoup d'appareils. Et ça, ça coûte. Évidemment, le problème, c'est l'accès aux équipements de rénovation thermique. Alors, si vous voulez, là je passe, hein, c'est-à-dire qu'en fait, je disais, on ne comptabilise pas toujours tous les coûts, mais je vois que le temps passe, je passe et j'arrive à la conclusion. Donc, on s'aperçoit que les prix, toutes taxes comprises, n'ont pas baissé, mais les prix de gros ont chuté. On a une situation un peu paradoxale. Si vous voulez, l'Europe a dit, la Commission européenne a dit, il faut faire de la concurrence. Certes, cette concurrence s'est plutôt fait sentir en amont au niveau du marché de gros, mais pas tellement en aval. On a cru au départ qu'en faisant l'Europe de l'électricité, on allait faire converger les mix électriques et qu'on allait faire converger les prix de l'électricité entre les Français, les Allemands, les Anglais. Or, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Et il ne peut pas en aller autrement. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'interférence du politique. Le fait qu'il y a, dans certains pays, on dit on ne veut plus de nucléaire. Donc à partir du moment, si vous laissez faire le marché, il faut aller jusqu'au bout de la logique. Vous ne pouvez pas dire, je fais confiance au marché, ben, que, si le prix du nucléaire est moins cher que le prix du charbon, on va faire du nucléaire. Mais les Allemands ont décidé de ne pas faire de nucléaire, d'arrêter leur nucléaire. Par conséquent, la décision politique dans certains pays fait qu'on ne peut pas faire confiance au marché à ce niveau-là. L'autre élément, c'est les taxes. C'est-à-dire que les taxes sont très différentes d'un pays à l'autre. Donc, si vous voulez, les prix de gros ont convergé parce que les marchés de gros ont des prix assez voisins, même s'ils sont plus bas en Allemagne qu'en France ou dans d'autres pays européens. En revanche, les prix, toutes taxes comprises, n'ont pas convergé. La logique d'appeler les centrales selon le mérite order est faussée du fait qu'il y a des énergies qui font des enchères à prix nul, tout simplement parce qu'elles sont payées hors marché. Si vous voulez, on fait confiance au marché, mais on met des exceptions au marché. Et quand les exceptions sont trop criantes et posent problème, on met des rustines sur les exceptions. Donc finalement, ça devient très compliqué. Donc il ne faut pas penser que c'est le marché qui fonctionne. En fait, il y a beaucoup de régulation, il y a beaucoup d'interventionnisme, mais on met des règles qui sont souvent contradictoires. En fait, ce qu'il faut, c'est comparer le coût moyen des centrales et pas le coût marginal. Il faudrait comparer le coût que ça coûte, y compris le capital, si vous voulez. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que si on appelait les centrales en fonction du coût moyen et pas en fonction du coût marginal, la situation ne serait pas la même. Bien évidemment, les renouvelables ne passeraient pas. Elles passeraient probablement avant le charbon, elles passeraient probablement avant le gaz et le charbon dans certains cas, surtout si on met un prix du carbone. Mais elles ne pourraient pas passer devant le nucléaire parce que ce serait plus coûteux que le nucléaire. Alors aujourd'hui, le faible prix du carbone ne permet pas d'introduire une vérité des coûts. En fait, il faut davantage taxer le prix du carbone. Et puis, il faut bien voir aussi que la libéralisation des marchés a fragilisé un peu les opérateurs historiques. Aujourd'hui, tous les grands opérateurs historiques, EDF, E.ON, RWE en Allemagne, ne sont pas dans une très très bonne position parce qu'ils sont concurrencés par des entrants qui, au départ, ne font pas d'électricité. Aujourd'hui, tout le monde fait de l'électricité. Vous pouvez acheter votre électricité chez Total, vous pouvez l'acheter à Amazon. Aux États-Unis, Amazon vend de l'électricité. Donc, les gens du numérique, demain, ils vendent de l'électricité. Les supermarchés vendent de l'électricité. Donc, tout le monde se met à faire de l'électricité. Pourquoi ? Parce qu'on va vers des usages de plus en plus électriques, avec de plus en plus de numérique. Et alors, à ce moment-là, vous donnez un avantage, évidemment, à ceux qui sont présents dans le numérique en particulier. Donc, je dirais, les énergies renouvelables vont couvrir une part croissante du bilan. Bon, ça se défend, si vous voulez. Moi, je ne crois pas du tout à un scénario 100% renouvelable. Ça me paraît complètement irréaliste, y compris pour la France. Le poids sera très variable en fonction des contraintes et des priorités locales. Je pense que aux États-Unis, il y a encore, je dirais, de la marge pour le charbon et même pour le gaz, bien évidemment. Les subventions vont probablement disparaître parce qu'il y a eu trop de subventions. Et on a fait d'ailleurs la même erreur, je l'ai dit, avec les renouvelables qu'avec la politique agricole commune. Trop de subventions qui faussent les prix de marché. On veut faire confiance au marché, mais on introduit des exemptions qui perturbent le fonctionnement du marché. Néanmoins, il y a une grande révolution qui est attendue, c'est celle du stockage de l'électricité. Alors elle peut changer la donne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on attend une révolution importante, c'est une révolution au niveau des batteries, mais il y a encore des progrès techniques à faire. Alors la grande question qui peut se poser aussi, c'est est-ce que demain, il y aura des petits réseaux locaux ou un grand réseau international ? Je crois aux vertus des réseaux interconnectés. Au départ, l'électricité a été produite localement. C'est les collectivités locales qui ont commencé à faire des réseaux. Et puis on a étendu les réseaux au fur et à mesure. Hein. Donc aujourd'hui, il y a une interconnexion très grande. Donc la question que certains posent, c'est est-ce qu'on va vers une électricité de plus en plus décentralisée, produite localement, avec des petits réseaux locaux? Cette électricité sera renouvelable. Ça, c'est un modèle. En disant, demain, toute l'électricité sera produite localement. Chacun fera son électricité dans son coin, avec son voisin, etc. etc. Bon, très bien. Premier modèle. Puis à l'inverse, il y a ceux qui disent, mais non, on va vers des réseaux internationaux, la route de la soie chinoise. C'est-à-dire, demain, on aura des réseaux à très 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 haute tension, avec des endroits où on localisera la production nucléaire, la production solaire, et puis on va échanger, et le progrès technique fera que les pertes en ligne ne seront pas très importantes. Et donc, on va banaliser, en quelque sorte, les réseaux interconnectés. Alors, est-ce qu'il y aura coexistence des deux? Ce n'est pas incompatible, mais il y a une interrogation. C'est important pour les gestionnaires de réseaux, parce que quand vous construisez un réseau, vous ne savez pas s'il sera encore là dans 50 ans. Bon, on peut penser que oui, mais la question mérite d'être posée. Elle n'est pas aussi simple que ça. Donc, on peut à terme avoir coexistence des deux. Ce dont on est sûr, c'est que l'électricité sera de plus en plus décarbonée. Il y aura de plus en plus d'électricité décentralisée, et en tout cas digitalisée, c'est-à-dire le numérique interfère de plus en plus, notamment pour gérer la demande. Ça, c'est important. Quand on ne peut pas gérer l'offre, on gère la demande. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, dans certains cas, plutôt que d'ajuster l'offre à la demande, on peut ajuster la demande à l'offre en disant aux gens, écoutez, je vous envoie un signal prix, là, avec un boîtier, ne consommez pas maintenant, attendez tout à l'heure, ce sera moins cher. Hein, ou, etc. Ou on peut programmer les équipements comme ça. Ça, c'est le numérique. Ça peut se concevoir. Ceci étant, il ne faut pas se faire d'illusions. Vous l'avez vu quand j'ai présenté la première slide, les énergies fossiles ont encore de beaux jours devant elles. Et donc, à l'échelle mondiale, bien évidemment, à l'échelle mondiale, il ne faut pas se faire d'illusions, il y a encore beaucoup de charbon. On a 150 ans de charbon en réserve prouvée, 250 en réserve, en ressources potentielles. On a 53 ans de pétrole devant nous, 50 ans de gaz. En 1974, on disait on a 30 ans de pétrole, en 2000, il n'y en aura plus. Aujourd'hui, on dit qu'il y en a 53 ans. Hein. Bon, donc le progrès technique nous permet de découvrir de nouveaux pétroles. Donc ceux qui ont du pétrole sous les pieds, du gaz sous les pieds, du charbon sous les pieds, s'ils ont besoin de l'utiliser, ils ne s'en priveront pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne feront pas d'efforts pour lutter contre le réchauffement climatique. Les Chinois le font, l'effort pour lutter contre le réchauffement climatique. Ce n'est pas au nom des grands principes, un petit peu au nom des grands principes pour la presse. C'est surtout parce que la pollution est devenue insupportable dans les grandes villes. Donc ils sont bien obligés d'arrêter d'utiliser du charbon dans les villes. Donc si vous voulez, ils jouent beaucoup la carte des renouvelables pour cette raison-là. Et ils veulent être présents sur le marché international. Et le goulot d'étranglement de demain, ce ne sera pas les ressources. Ce ne sera pas les ressources fossiles. Il y a quelques années, une conférence comme ça, on commençait en disant il n'y aura plus de pétrole dans quelques années. On va vers la pénurie. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème de pénurie. Par contre, il peut y avoir un goulot d'étranglement au niveau de ce qu'on appelle les métaux rares, les terres rares, c'est-à-dire des produits qui sont indispensables dans toute l'industrie du numérique. Et ça, c'est pour les usages électriques qui sont demain importants, c'est-à-dire le véhicule électrique et les usages domestiques. Et là, la Chine est très présente. Et c'est là où l'Europe devrait réagir davantage, à mon avis. Merci.
Eh bien, merci beaucoup. Donc, je vous l'avais dit, en une heure, vous avez eu mieux que toutes les conférences qu'on a faites sur le sujet depuis 10 ans. Donc, c'est du concentré pur jus. Hein, voilà, merci. Vous avez abordé tout. C'est pas difficile. Donc, merci encore. Je rappelle les conférences les plus récentes qu'on a eues sur le sujet. C'est les conférences de M. Flucher sur la partie technique de l'introduction, enfin, le fonctionnement des réseaux et l'introduction des intermittents. Pas du spectacle, mais de intermittent de l'énergie dans les réseaux, donc avec les centrales.
Maintenant,
donc,
on dit pilotable. Hein. Oui. La mode maintenant, c'est pilotable, voilà, non pilotable. Voilà. Hein. Intermittent, c'est.
Donc, je pense que là, on peut prendre quelques dizaines de minutes pour échanger avec le conférencier, qu'on remercie à nouveau de son intervention. Alors, qui se lance dans... Oui. Alors, il faut redire ce que c'est que les STEP.
C'est les stations de pompage. C'est deux barrages, si vous voulez. Les STEP, c'est pour faire simple, c'est deux barrages, un en amont, un en aval. Et donc, vous pompez de l'eau quand l'électricité n'est pas chère pour monter l'eau dans le barrage du Haut, et quand on a besoin, vous turbinez pour fabriquer votre électricité. Donc des stations de pompage, il y en a en France. Simplement, il y a un potentiel qu'on estime pas très important. Certains disent, alors là, il y a une controverse. Le problème, c'est que pour que ce soit rentable, il faut que la différence de prix entre la pointe et leur creuse soit sur les marchés, soit suffisante pour rentabiliser. Parce que vous allez pomper quand le prix de l'électricité est faible et vous allez ensuite turbiner quand le prix de l'électricité est élevé. Et les calculs montrent qu'aujourd'hui, c'est pas nécessairement rentable de construire de nouvelles STEP. C'est rentable de faire marcher celles qui existent, ça, parce qu'elles sont souvent amorties. L'autre problème, c'est que si vous voulez construire des STEP en France, ben c'est pas facile. Parce que construire même un petit barrage sur un petit affluent, c'est quasiment impossible. L'expérience l'a montré. Donc les barrages, aujourd'hui, l'opposition aujourd'hui, si vous voulez, dans la construction des barrages dans beaucoup de pays, alors a fortiori dans des pays européens et en particulier en France, c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible pour des raisons environnementales. Les gens s'opposent à la construction d'un barrage. Oui, mais il faut deux. Il en faut deux. Si vous voulez.
Ouais, en bas et en haut.
Il en faut deux.
Oui, allez.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi le problème du coût du transport qui handicape les solutions ? On a parlé là, il y a des prix d'énergie, mais il y a pratiquement la même chose en transport. RTE doit payer. Donc, lui qui stocke, au stockage de stockage.
Oui, alors il y a le transport. Bon,
il y a toujours quelqu'un sur le marché européen qui prendrait l'électricité plutôt que.
Oui, c'est vrai. Non, on trouvera. À l'heure actuelle, si vous voulez. Alors, j'ai parlé des prix négatifs, encore une fois, c'est un peu anecdotique. Ça, au départ, ça ne l'était pas. On a pu mieux gérer, anticiper. Au départ, il faut savoir qu'on est descendu à moins 500 euros le mégawattheure en 2009 en Allemagne. On a payé 500 euros le mégawattheure pour se débarrasser d'électricité. C'est quand même relativement coûteux. Si étant le coût du transport, il n'est pas négligeable. Si c'est en haute tension. Ça va, c'est pas trop élevé. Sur les 30% du prix de revient pour un consommateur domestique, il y a 10% transport, 20% distribution. Ce qui coûte cher, c'est la distribution.
Vous avez énormément parlé des particuliers qui payent des taxes. Qu'en est-il des industriels ?
Alors, ça dépend des pays. Par exemple, en Allemagne, nous, on avait fait une étude avec l'Institut de Karlsruhe. En Allemagne, les industriels, pour différents motifs, sont souvent exonérés de certaines taxes. Alors, les industriels français ne sont pas exonérés de toutes les taxes. Ils payent la CSPE, mais elle est plafonnée. Donc, si vous voulez, vous avez un système qui est très variable suivant les industries. La SNCF, qui est un très très gros consommateur d'électricité, a une CSPE qui est plafonnée. Heureusement pour elle, si j'ose dire. Et donc, il faut savoir que les industriels payent la CSPE, ils payent des taxes, ils sont exonérés, enfin, ils récupèrent la TVA, donc ils ne supportent pas la TVA, mais ils payent des taxes. Alors, là aussi, il faut distinguer entre les gros industriels et les PME. Les PME payent les taxes. Surtout si c'est une PME qui est au tarif bleu, qui paye le tarif quasiment domestique.
Non, relevez le micro.
Voilà. Ah, ça ? Ah, d'accord.
Ça frotte sur.
Je ne suis pas habitué. J'ai ramené quelque chose ici.
Oui ?
Oui. Vous avez parlé du nucléaire ancien et du nouveau. Et puis, il varie de 1 à 3. L'ancien, c'est qu'il s'arrête quand ? Et le nouveau, il commence quand ?
Alors.
En fait, c'est les sécurités, j'imagine.
Non, l'ancien, c'est ce qui est construit, si vous voulez. Ce qu'on appelle l'ancien, c'est en France les 58 réacteurs Westinghouse. C'est-à-dire, vous savez que la France avait une filière qui était la filière UNGG, Uranium Naturel Graphite Gaz. On l'a abandonnée au profit de la filière Westinghouse, qu'on a francisée. Donc, les 58 réacteurs, c'est ça qu'on appelle l'ancien. Donc, voilà, ces 58. Ce nucléaire ancien, la Cour des comptes l'avait bien estimé, ça revient en France. Elle l'avait estimé, première fois, dans son rapport de 2012. Je me souviens, j'étais dans le rapport d'experts, l'avait estimé à 49,5 euros le mégawattheure. Dans son rapport suivant en 2014, compte tenu de certains investissements de sûreté, elle l'a estimé à 59. Donc, si vous voulez, entre 50 et 60. C'est à peu près la moyenne dans beaucoup de pays. Donc ça, c'est le nucléaire, j'allais dire, ancien. Alors, nucléaire nouveau, c'est, pour ce qui est de la France, l'EPR. Voilà. Alors ça, c'est un nucléaire nouveau. Donc, en général, c'est l'EPR ou l'équivalent américain, l'AP1000, etc. Bon. Alors là, on est nettement au-dessus. En France, on est au-dessus maintenant de 100 euros le mégawattheure. Alors, on s'en défend en disant, c'est un prototype, quand on en fera plusieurs, ça va baisser, etc. Ceci étant, il faut savoir qu'il coûte beaucoup plus cher parce que c'est un très gros réacteur, beaucoup plus sécurisé. La sûreté est nettement meilleure avec l'EPR. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas anticipé cette dérive. Alors, les projets Hinkley Point, à Hinkley Point, les deux... ce qui est prévu, construction des deux réacteurs EPR, c'est, on est aux alentours, un peu plus de 100 euros le mégawattheure, parce que c'est en livres sterling, ça doit être à 97 livres sterling, ça doit être à peu près 105, 110 euros le mégawattheure. Alors c'est un contrat très intéressant, le contrat avec l'Angleterre, parce qu'EDF a signé en disant, le gouvernement anglais dit, je vous rachèterai à ce prix-là. Sous-entendu, si sur le marché le prix est meilleur, vous me donnez la différence, et si sur le marché c'est plus affaire, bon, il y a un système, si vous voulez, de contrat pour différence intéressant. Ceci étant, il faut que EDF puisse construire avec l'objectif de respecter le coût. Le problème de l'EPR, il est là, c'est la dérive des coûts et le temps, si vous voulez. Bon, l'EPR. Alors certains disent. Ça a été un grand débat qu'on a eu dans la commission. Certains disent, y compris à EDF, il aurait mieux valu passer directement, prolonger la génération 2 actuelle. Parce que génération 3, certains disent, c'est une fausse génération 3, c'est 2 plus, quoi. Bon. Plutôt que de passer à génération 3, il aurait plutôt fallu passer directement à génération 4 ou prolonger génération 2 en améliorant. Enfin, bon. Ben ça, c'est un débat, le coup est lancé. Donc la France continuera du nucléaire. Alors il y a le nouveau EPR qui doit arriver. Nucléaire, EPR, nouveau modèle, plus simple, plus petit. Alors, je n'ai pas parlé de tout, mais il y a un problème technique attendu dans le nucléaire, parce qu'on pourrait être tenté de dire, le nucléaire, les perspectives ne sont pas réjouissantes. C'est faux de dire ça, parce qu'à l'échelle mondiale, la première entreprise dans le nucléaire au monde, premier opérateur, c'est Rosatom, de loin, les Russes. Bon. Donc les Chinois derrière, parce que les Chinois... Tiensan a été construit avec les Français, mais ils sont en train de construire leur Hualong qu'ils vont vendre aux Britanniques. Donc il faut espérer que nous, on arrivera à faire fonctionner le nôtre, parce qu'autrement, on sera obligé d'acheter du nucléaire chinois demain. Donc espérons qu'on n'en sera pas là. Mais il faut voir que certains disent qu'il peut y avoir des nouveaux réacteurs plus petits, à sûreté plus passive, plus fiable. C'est ce qu'on appelle, c'est tout le modèle des SMR, Small Modular Reactor, des réacteurs modulaires. Alors là, beaucoup pensent qu'il y a un projet technique important. Alors il y a une autre filière où la France était en pointe, mais malheureusement, avec les décisions récentes prises par le gouvernement, c'est Génération 4, c'est-à-dire c'est le projet Astrid qui, à mon avis, est renvoyé au calendrier grec. Non, Astrid, c'est quatrième génération, surgénérateur. C'est équivalent, c'est Superphénix revu et corrigé. Voilà. Non, c'est surgénérateur, qui a de grandes vertus. La France est en pointe dans ce domaine. Bon, ouais. On a flingué Superphénix, et à l'heure actuelle, les seuls qui construisent vraiment ce genre de réacteur, c'est les Russes. Un peu les Chinois. Voilà. Les Américains s'y mettent aussi. Mais en France, on a renvoyé ça à plus tard. C'est un peu dommage, parce qu'on ne sera pas dans la course, à mon avis.
Oui. Attends. Oui.
Et on n'entend jamais parler de ITER.
Voilà. Parce que c'est une autre échelle de temps.
Alors les méchantes langues disent ITER a de l'avenir, il en aura toujours. Mais oui, c'est pas moi qui dis ça, c'est méchantes langues. Hein. Non, ils disent oui, ITER, on est au niveau de la recherche fondamentale. Hein. Bon, celui qui s'en occupe, je voyais bien, c'est Bernard Bigot qui est le grand spécialiste.
On est allé visiter. On est allé visiter il y a 2 ans, là, et moi il y a 1 an. Et il y aura, je pense qu'on fera des voyages à ITER, puisque le montage des grands composants va commencer, je pense, l'année prochaine, donc monter les grandes bobines. Et là, ça va être spectaculaire. Alors, est-ce que ça fera pas d'électricité? C'est pas fait pour ça, d'ailleurs, ITER. Comme on vous l'a expliqué, c'est pour démontrer que ça peut fonctionner. Mais bon.
On met beaucoup d'argent. Alors, c'est international. Hein. Oui. La France a la chance de l'avoir. C'est un projet. Ça peut marcher. Hein. Ceci étant... c'est pas pour demain ou après-demain. Mais non, vous savez, les mutations technologiques, il y a parfois des surprises. Hein. Je veux dire, dans le domaine des télécoms, on l'a vu, Hein, qui, il fallait faire une conférence sur les futurs télécoms en 1970. Il fallait être spécialiste pour anticiper le téléphone mobile, hein, avec toutes les applications qu'il y a dessus. Bon. Ouais. Sur les déchets nucléaires, le dernier prix Nobel de physique, qui est un Français, dit « Mais moi, avec mon super laser, je peux transmuter des tas de déchets, vous allez voir, etc. » C'est pas pour tout de suite. Mais après tout... C'est vrai, quand on fait des prévisions, les gens rigolent parce qu'ils disent « Ah, vous vous trompez toujours, les gens se trompent ». C'est vrai que les gens se trompent, mais c'est difficile de faire autrement. Alors, quand on regarde, après coup, quelle est la cause principale des erreurs, c'est les mutations technologiques. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des mutations qu'on n'avait pas du tout anticipées. Il y a des progrès, on sait que si on met tant d'argent sur tel progrès, en médecine, ça peut se faire. On sait qu'on met tant d'argent sur telle chose, on fait de la recherche, on trouvera... Dans certaines technologies énergétiques en particulier, moi j'avais regardé ça, c'est très 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 difficile. Et il suffit de lire, c'est amusant, je fais ça avec les étudiants des fois, lire des anciens rapports de l'Académie des sciences sur les préoccupations, etc. On s'aperçoit que c'est très daté, si vous voulez.
Oui ?
L'élément chimique le plus efficace, c'est maintenant manifestement le pétrole, mais dans les piles qui stockent l'électricité, il y a quand même des contraintes physiques qui font que je vois mal qu'on puisse stocker de l'énergie au niveau d'un pays, on peut stocker de l'énergie au niveau d'application locale.
Non, mais on dit que tout le monde aura des voitures électriques et dans les garages, le stockage, ce sera l'ensemble des batteries de toutes les bagnoles électriques.
Oui.
C'est ça l'idée. Hein.
Faut-il qu'il y a assez de lithium ou de terre rare dans le monde ?
Certes. Mais
là, ça, c'est un autre sujet. Alors, lithium, oui, c'est un beau sujet. Alors, le lithium, il faut savoir que lithium, bon, il y a trois pays qui comptent, c'est le triangle d'Amérique latine. Hein. Alors, par contre, les Chinois, eux, parce qu'il y a ceux qui extraient le lithium, puis il y a ceux qui font le raffinage. Les Chinois, ils font le raffinage. Hein. Donc, ils préemptent un petit peu toutes les ressources. Ceci étant, c'est vrai qu'il peut y avoir un goulot d'étranglement à ce niveau-là. Les terres rares, contrairement à ce qu'on pense, c'est qu'elles ne sont pas si rares que ça, parce qu'en fait, elles sont rares, parce qu'on les voit en petite quantité, c'est pour ça qu'on les appelle rares. Mais elles ne sont pas rares au sens, on en trouve un peu partout.
Il y en a partout. Il y en a partout, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est très concentré. Quoi.
Voilà, ça coûte cher d'aller les chercher.
Voilà.
Alors, ce n'est pas vraiment des terres, elles ne sont pas rares, mais on les appelle des terres rares.
Alors, je vous dis, on a eu une conférence sur les terres rares.
Ah,
donc, il y a. Non, mais par M. Landré Léonard, là, au mois de décembre. Donc, voilà. Avant que vous proposiez une autre question, donc je l'avais mis là sur le site. Donc voilà la couverture du bouquin de M. Percebois. Donc je l'ai lu, donc je l'ai trouvé bien. C'est ça aussi qui m'a motivé pour l'inviter. Voilà. Donc je recommande vivement de la lecture puisque c'est d'une façon beaucoup plus détaillée l'exposé qui vient nous être proposé.
Voilà. Il n'y a pas une formule mathématique parce que celui-là, c'est purement littéraire.
Mais il y en a beaucoup derrière, mais c'est caché. Voilà. Vous avez d'autres questions ? Oui ?
Écoutez, je pense les grands réseaux interconnectés. Alors, l'interconnexion, je dirais, c'est à la fois un élément de fragilité et un élément de secours. On l'a vu, puisque quand il y a eu des problèmes en Allemagne, c'est Grand Maison qui a sauvé le réseau européen en 2006. Récemment, il y a eu un problème entre l'Autriche et l'Allemagne. De nouveau, c'est la France qui, je dirais, est obligée d'aider à sauver le système. Donc, on peut se porter mutuellement secours. Entre pays limitrophes, c'est ce qu'on fait depuis longtemps. On a compris que l'interconnexion avait du bon. C'est un problème de fragilité parce que s'il y a un pépin en Allemagne, ce pépin, il peut venir en France. En plus, à certains moments, on a intérêt à arrêter une centrale, y compris une centrale nucléaire française, pour laisser passer de l'électricité allemande, éventuellement à certaines heures, laisser passer de l'électricité allemande carbonée. Alors, pourquoi je dis que les grands réseaux interconnectés, ça peut être fragile, c'est pour une raison cette fois plus politique. C'est-à-dire que l'électricité, c'est un produit qui aujourd'hui ne se stocke pas. Et si vous voulez, on craint toujours la dépendance à l'égard des Russes en matière de gaz. Le gaz, ça se stocke. L'électricité, je ne vois pas la France dépendre pour son approvisionnement en électricité des Chinois. hein, ou des Russes, ou même des Ukrainiens, si vous voulez, parce que les trois projets chinois, ça passe soit par le Kazakhstan, soit par l'Iran, bon, ça, et puis ensuite la Turquie, enfin bon. Mais il y a eu un cas où les gens l'avaient anticipé, c'est les Allemands. Ils ont cru à Desertec, en disant on va mettre du solaire dans le Sahara, puis on va expédier l'électricité. Bon, écoutez, si c'est marginal à 1%, pourquoi pas? D'ailleurs, on est interconnecté avec le Maroc, hein. Mais, je dirais, on ne va pas dépendre pour son approvisionnement d'un pays étranger. On dépend du pétrole. La France importe 100% de son pétrole. Mais le pétrole, ça se stocke. On a des stocks stratégiques. La France importe 100% du gaz. On importe 100% du charbon. Mais ça se stocke. Le seul pays en Europe qui importe beaucoup d'électricité, c'est l'Italie. Ils sont à peu près à 12 ou 13%. Hein, c'est déjà une forte dépendance. Mais chaque pays produit son électricité. C'est une électricité, elle est nationale. Alors, je dirais même entre pays européens qui s'entendent bien, c'est compliqué. Mais alors de là à dire, il y aura demain un énorme réseau interconnecté avec les Chinois, etc. Pourquoi pas? Ce sera peut-être ça demain la réalité, j'en sais rien. Mais je pense que là, la dimension stratégique de l'électricité, tant qu'on ne saura pas stocker à grande échelle, à mon avis, ce ne sera pas très réaliste pour cette raison-là.
Ah. Global et d'un système local,
Ah ben on peut, on peut avoir une coexistence, c'est-à-dire qu'on peut avoir, on peut avoir de l'autoproduction locale, c'est-à-dire des gens qui font des réseaux locaux. Dans le même temps, maintenir un réseau interconnecté. La seule chose, c'est qu'il faut que la règle du jeu soit très claire entre les deux, parce que on peut pas. Moi, je suis pas contre l'autoproduction, autoconsommation. Mais on peut pas dire, je fais ma production décentralisée, je fais mon petit réseau dans mon coin, et quand j'ai un problème, je demande au réseau de me fournir. Il peut jouer le rôle de secours, mais à ce moment-là, il faut payer le secours. Hein, c'est comme l'assurance. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, si on met en place un tel système, il faut revoir complètement la règle du jeu d'accès au réseau. La tarification d'accès au réseau doit être revue pour l'autoconsommation.
Alors, je ne vais pas poser des questions, mais je vais redire des phrases un peu plus hard qui disent la même chose que ce que vous avez dit. Je vais réévoquer le problème de la baisse de la consommation. Alors, Jean-Marc Jancovici le dit dans une phrase très... Donc, pour faire baisser la consommation, il n'y a que deux solutions. Soit on joue sur les prix, soit on rationne. Il a prononcé le mot « rationner », c'est-à-dire que le pouvoir politique vous dit « vous devez éteindre ceci, c'est pas vous qui décidez, c'est quelqu'un de l'extérieur, donc je ne sais pas quel organisme, c'est le pouvoir, c'est un rationnement ». Je rappelle que le mot « rationnement », il veut dire quelque chose, même surtout pour les plus anciens d'entre nous. Donc aujourd'hui, ce mot « rationnement » n'est jamais prononcé dans le discours politique. On dit, l'ADEME, puisque la grande championne de la baisse de la consommation, c'est l'ADEME, l'Agence pour les économies d'énergie, voilà. Donc il y a tous les hauts fonctionnaires qui sont là-dedans sont des écolos militants, on le sait très bien, et qui disent, mais si, on va arriver à faire baisser la consommation. Vous voyez, on va mettre des lampes à basse consommation, on va isoler beaucoup les choses comme ça. Vous l'avez bien dit, on isole, mais il faut payer l'isolation. Donc ça se termine toujours par des problèmes de dépenses. Ah ben on dit l'État va payer. Ah ben non, mais l'État il doit pas mettre de taxes en plus. Ah ben non, mais l'État doit payer. Donc c'est miraculeux, c'est le Père Noël, c'est tout à fait les débats actuels. Donc voilà. Donc je crois qu'il faut être conscient que ce mot qui est très provocateur de rationnement, il est indirectement inscrit dans la PPE. Il est indirectement inscrit dans la PPE. C'est-à-dire le pouvoir politique va vous interdire de consommer de l'énergie. Et alors que ce n'est pas dit. Alors évidemment, on dit que c'est en 2035. Donc en 2035, il s'en passera des choses, des référendums, des élections, des présidents, des machins, des trucs et des bidules. Mais le mot est implicitement inclus dans la PPE.
Il faut aller vers une économie de décroissance, certains croient la décroissance.
Voilà, c'est l'économie de décroissance. Et deuxièmement, donc, pour dire d'une façon encore plus... c'est aussi, je cite mes sources, hein, elles sont bonnes, mais je suis beaucoup moins bon que Jean-Marc Jancovici. Il a un humour absolument dévastateur. En France, c'est extraordinaire. On adore la concurrence quand les prix baissent, mais on veut de la régulation quand les prix montent. Voilà. Donc, pour faire court, c'est ça. Voilà. Et tout le débat qu'on a actuellement dans les événements sociaux, c'est exactement ça. Vous voyez, les prix des forfaits de smartphones, ça baisse. C'est vachement bien, c'est la concurrence. Les prix de l'essence montent. Que fait l'État ? Voilà. Point barre, c'est pas la peine d'aller plus loin. Donc, on a un problème de schizophrénie généralisée qui fait que, en fait, on ne comprend pas comment ça marche. Mais c'est comme ça. Hein. Donc, c'est pas une question, c'est un commentaire. Vous avez compris. Mais j'insiste beaucoup sur le fait que, d'une façon subliminale, le mot rationnement est inclus dans la PPE. J'insiste avec force. Voilà. Mais ça, c'est pas dit. Voilà. On dit que naturellement, la consommation baissera. Et qu'est-ce que c'est que la nature ? Bon, ben, ça va pas se faire par un miracle. Voilà. Et quand on aura mis des LED partout, ça va pas baisser de 30% la consommation d'électricité. Ça, c'est clair. Bon, encore une autre question. Ah.
Oui. Bon, l'Allemagne, on est obligé de l'acheter, on arrête les centrales.
Oui. Alors, puisqu'il dit l'énergie, oui, on est. Ah ben non, mais c'est dans la loi d'énergie 22. Si on lit la loi allemande, elle dit la loi de sortie du nucléaire ne marche que parce que la France a décidé de continuer le nucléaire. C'est marqué dans la loi allemande.
Oui, mais on arrête plus le nucléaire pour acheter.
On arrête une centrale. Oui. Oui.
Non. Si on prend le nucléaire, c'est qu'il est moins. Si on prend le solaire à certaines heures sur le marché spot, c'est qu'il est moins cher que le nucléaire français. Non, parce que c'est un coût marginal. Je veux dire qu'à ce moment-là, c'est le prix du spot. C'est-à-dire que le prix de l'éolien, c'est parce qu'on ne comptabilise pas le coût fixe. C'est pour ça que la logique du mérite ordre telle qu'elle est présentée, il faudrait une logique sur les coûts moyens, pas sur les coûts marginaux.
Oui.
On voit fleurir des éoliennes de plus en plus.
Oui.
Je voudrais savoir qui en est le propriétaire, parce que je me suis laissé dire que les fonds de pension américains avaient vraiment mis la main sur le marché des éoliennes. Est-ce que
c'était le cas ? Ça pourrait être indirectement, parce que les investisseurs, si vous voulez, puisque le problème, les gens qui font des éoliennes, ce sont des investisseurs qui empruntent sur le marché. Et en général, dans les sociétés qui font ça, il peut y avoir effectivement des fonds de pension américains. Mais aujourd'hui, le plus gros investisseur dans l'éolien, c'est EDF. Autant que je sache,
c'est
plus de 30%. Ouais. Hein. Donc, et là, effectivement, il y a un petit peu une escroquerie intellectuelle, c'est de dire, ok, on fait de l'éolien, mais il faut que ce soit, puisque c'est subventionné, eh bien, il faut que ce soit public. Ben non, ça n'a pas l'air de déranger les gens de dire, puisque les gens n'ont pas de capitaux. Ils font appel au marché des capitaux pour construire des éoliennes. Et là-dedans, effectivement, il peut y avoir des fonds de pension. Mais vous savez que les fonds de pension, c'est l'acmé du communisme vu par les Américains, puisque tous les enseignants de Californie sont dans les fonds de pension, le plus gros fonds de pension américain, c'est la caisse de retraite des enseignants de Californie qui vous mettent à bas toute l'industrie européenne. Mais eux, ils sont, à travers les fonds de pension, ils sont propriétaires des sociétés qu'ils exploitent. Donc, vous voyez, les Américains ont atteint l'objectif ultime de Marx, de dire d'être, on est propriétaire des moyens de production. Si on veut pousser la logique à fond... Voilà. Casser la figure. Bien, eh bien, écoutez, on applaudit très fort.
Merci.
Le professeur Percebois.
Oui, cette conférence était organisée conjointement par l'UTB et la SFEN, et on a parlé beaucoup de choses. Je crois que cette conférence a eu le mérite de remettre les choses bien carrées. Et on a parlé de carburant, et on va vous en donner un petit peu pour vous permettre de rentrer chez vous.
Heureusement que je ne suis pas en voiture. Merci. Merci bien. Merci.
À la semaine, c'est bien faire les choses, hein, vous voyez. Bon, merci beaucoup. Et bonsoir.
Comment on fait là? On arrête